Ladies and gentlemen, bienvenue à la Prohibition.
Oui. Quelle époque!
Quelle époque! On est en 2025.
Oui.
Il y a 100 ans.
Pouvez-vous croire ça? Hey. Si on recule 100 ans en arrière.
100 ans en arrière.
Il fut une époque.
Qu'est-ce que le Québec avait de l'air pendant la Prohibition?
Il était à ses sommets. Le Québec a été très prospère parce que l'alcool, il s'en est servi à bon escient. Une époque de prospérité, la Prohibition pour le Québec. Mais là, son voisin du Sud, lui, il a goûté. Ça a créé univers...
Peut-être que c'est parce qu'il goûtait un petit peu trop.
Ah oui, ben...
Santé à ça. Santé à...
À cette époque d'abstinence d'alcool, où on devait se contenter d'autres nectars révolus de...
On devait trouver... d'autres moyens pour combler ce besoin.
Exact.
Parce que quand que l'humain veut, l'humain peut. Oui. En tabarouette. Puis c'est ça que la Prohibition nous a appris. Oui. Mais surtout, on retourne au début.
Exact. Où ça a commencé, ça? Les vestiges de l'abstinence de l'alcool.
L'abstinence de l'alcool. Oui.
Parce que quand même, là, je veux dire, l'alcool a été présent dans la société... pendant des millénaires.
Ah, ben oui.
Même si on montrerait à la Rome antique, le vin se faisait aller.
L'alcool.
Exact.
Les rois. L'alcool. Les crusades des catholiques.
Oui. Ça serait plus cool de se dire, mais qu'est-ce qui s'est pas créé sans l'alcool involved? Oui. Mais au Québec, il y a un certain abbé, donc un homme de religion, en 1840, M. Charles Chiniki, qui a décidé de faire des premiers ébauches pour rendre l'abstinence de l'alcool dans le secteur. Et il a créé ce qu'on appelait le manuel de la tempérance. Donc, pour convaincre les gens de slacker sur la boisson de Satan elle-même. Et ça a fait une petite vague un certain temps, mais quand même, c'est pas tout le monde qui écoute les consignes, hein, parfois. Mais c'est pas tout de suite encore que la prohibition nous arrive. C'est quand même... 80 ans plus tard, où ce que là, en 1919, on a la loi Volstead qui rentre...
Le Volstead Act.
Volstead Act.
En fait, puis si on se rappelle, un acte, c'est un décret au Congrès pour essayer de passer un amendement. Parce que tu ne veux pas que ce soit juste une loi. Tu veux que ça soit dans la Constitution.
Américaine.
Mais là, on va commencer au début. Parce que... Quand on parle de prohibition, on parle nul autre qu'un des plus grands criminels que la Terre a porté. Mmh. Un gangster qu'on a eu la chance de faire une enquête sur le sujet.
Oui, bien sûr.
Je nommerai Alphonse.
Oui, Alphonse.
Gabriel Capone.
En personne. Parce que sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Oh non.
À trinquer à cette fin de prohibition.
Oh.
Qui
pas du tout.
Ce martini-là, il se prend bien.
Un bon petit martini avec un cigare. Mais je vais finir de rentrer dans le sujet parce que sans Gabriel Capone, le père d'Alphonse Capone, qui a immigré aux États-Unis en 1897. En 1897, Gabriel Capone arrive à New York. C'était un barbier. Sa femme était elle faisait des métiers à tisser. Là. Elle travaillait le tissu. Il arrive aux États-Unis, ils n'ont rien. Fait qu'il s'installe dans un quartier où beaucoup d'Italiens allaient s'installer, un quartier très pauvre, qui est Brooklyn.
Ben oui.
Et c'est quand même fou. Ils n'ont pas perdu de temps, le Gabriel Capone et sa femme, qui étaient déjà rendus à 3 enfants, quand est arrivé le quatrième, en 1899, à Alphonse Gabriel Capone. Le quatrième d'une famille de 9 enfants. C'est beaucoup
quand
d'enfants.
Même, ben oui, quand même. Surtout dans la pauvreté.
Fait que là, Alphonse, Al, on va l'appeler comme tu le dis.
Appelons-le
Al, c'est un ami, on le connaît bien.
Ben oui, on a eu quelques déboires avec lui.
J'y ai déjà mis les menottes.
Exact.
Une fois.
Tu peux en être fier.
Ouais. Et je l'ai libéré, aussitôt dit, aussitôt fait, et je me suis acheté un chalet dans les Hamptons. C'est incroyable.
Drôle de coïncidence.
Non, pas un peu, patron.
Oui.
Mais, OK. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé ensuite, c'est que le petit Alphonse, il grandit. Exact. Et ça a l'air qu'il était très intelligent. Il était studieux à l'école. Il ramenait des A et des B, souvent, jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Okay. À 8-9 ans, il a commencé à foxer un peu l'école.
Oui.
Puis il joignait avec des groupes d'amis pour faire des petits coups comme ça, mais aussi il travaillait. Il travaillait dans une allée de bowling.
Pour t'sais, placer les...
Oui, exactement. Okay. Fait que là, on doit être rendu en 1910, c'est environ, là, tu sais, même 1913, 1914.
Ouais.
Pendant que Alphonse Capone, grosse recherche, là, ça vient pas de mon enquête, pendant qu'Alphonse Capone est en train de placer des petites boules, des petites quilles, oui, au salon de quilles de Brooklyn, on est en 1913, on n'oublie pas. La Première Guerre mondiale est en danger.
C'est ça.
Là, les Américains, ils savent pas qu'est-ce qui va arriver de la Première Guerre mondiale. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un président élu qui s'appelle Woodrow Wilson. Le Woodrow Wilson, qui était le... Là, j'ai pas le chiffre exact de quel président qu'il était. Dans mes notes, c'est un peu vague. Mais je crois qu'il était le 28e.
Ouais, ça ferait du sens.
Woodrow Wilson passe le 16e amendement. En 1913. Savez-vous c'est quoi? C'est-tu,
le 16e.
Le 16e amendement, non, américain.
Qu'est-ce que c'est-il?
Le 16e amendement, c'est justement à cause que la tempérance, oui, et que le gouvernement réalisait que l'alcool commençait à être un problème, surtout pour l'économie américaine.
Exact.
Pourquoi? Parce que c'était le seul revenu, l'alcool, les taxes de l'alcool, pour le gouvernement. Le gouvernement n'avait pas d'autres moyens pour faire des revenus que... grâce à l'alcool ou la nourriture. Fait qu'est-ce qu'ils ont créé en 1913, le 16e amendement, The Income Taxes.
Ah oui?
Est-ce que Alphonse Capone, du haut de ses 13 ans, qui ne savait pas l'avenir qui lui attendait,
exact,
savait que ce jour-là, en octobre, que Woodrow Wilson a signé avec le Sénat le 16e amendement, que c'est ça qui allait le faire s'enfermer?
Exact, qui avait donné son talon d'Achille.
Son talon d'Achille.
C'est comme ça qu'on l'a eu.
On
a ressorti les calepins.
Est-ce que Woodrow Wilson le savait non plus? Il savait
non,
pas.
Non, il savait même pas c'était qui, Alphonse.
Là, c'est un petit gars de Brooklyn, Steve. Genre, il regardait avec un œil un peu louche. Non, mais Woodrow Wilson, qui connaît l'histoire de Woodrow Wilson, le président qui était là pendant la Première Guerre mondiale? Premièrement, il a fait un excellent travail, mais aussi cet homme-là s'est tué au travail. Tu sais, quand on parlait des photos de before and after ce mandat, là,
lui,
il est écopé parce que, bro, il a fait un arrêt cardiaque pendant qu'il signait le traité de Versailles. Il était en France, puis il a tellement fait de négociations avec l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Belgique, qu'il a fait un arrêt cardiaque, pauvre homme. Il a fait un stroke, il n'est pas mort sur le coup, mais il a gagné le prix Nobel de 1919 de paix à cause de ça.
À cause de ça.
Incroyable!
Ben, définitivement, parce qu'il s'est attelé à la tâche. Puis après ça, y a-tu des répercussions?
Woodrow?
Oui,
il est mort deux semaines après.
Ah ouais?
Il a fait
deux
un stroke
semaines après
en Europe.
Traité de Versailles.
Il est revenu en Amérique. Il est décédé.
Ça l'a tué,
Red. Ça l'a tué, mais il y a beaucoup de présidents qui se sont tués, Red.
Oui.
Genre, il y en a quelques-uns que je vais te nommer au cours de l'épisode.
De cette discussion.
Cette discussion, mais il y en a qui n'ont pas fait grand-chose non plus.
Oui, non.
C'est ça, ça qui est incroyable.
Exact. Ils n'ont pas tous eu des parcours parsemés dignes d'être mentionnés dans un podcast 100 ans plus tard. Là.
Je ne crois pas. Mais tu vois, lui, après Woodrow Wilson, qui en théorie, si on suit bien, serait peut-être le 26. Non, le 26, fait que lui, il serait le 27. Le 27, ce serait M. Coolidge. Qui connaît M. Coolidge, le
président? Méconnu.
Méconnu. Ouais. La guerre, elle est finie. Qui est cet homme? Il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf le Volstead Act.
Exact.
Qui est pendant M. Coolidge. Oui. On ne se souvient pas de M. Coolidge, ben.
Non.
Malgré qu'il a signé un autre acte, lui-même, tout seul, il a signé le Indian Act aux États-Unis.
Oui.
L'Indian Act, c'était qu'il donnait la citoyenneté, enfin,
vous
à toutes
Indian.
Les Premières Nations.
OK, ouais. Wow.
Fait que c'est dans le sens que...
Ben quand même, fait que ça veut dire que lui aussi, il a contribué beaucoup
exactement.
À forger l'Amérique ouais. d'aujourd'hui.
Mais là, vient la prohibition, pendant qu'il est là, M. Coolidge.
Fait que ça veut dire que c'est pas à partir de eux, c'est à partir de lui qu'ils ont eu le droit de vote aussi, ça veut dire?
Les femmes ont eu le droit de vote.
Puis les Amérindiens aussi.
Les Amérindiens aussi. Mais tout de suite, arrivé en 1920.
Exact. Fait que c'était un pilier, là.
C'est un pilier.
On est en pleine industrialisation
oui.
de l'Amérique, du
oui.
Québec, du Canada.
Oui.
Puis là, c'est les mais chemins forts, ils vont en planche.
Mais tu sais, ouais, dans le fond, les Amérindiens ont eu le droit de vote avant les femmes.
C'est fou.
Parce hein. que c'est après, c'est à Irving, quand ça a été changé, exact. Que les droits de femmes de vote. Pouf. Mais là, disons qu'on on entre dans la prohibition.
Nous, ils sommes.
On est là, on vient de rentrer dans Prohibition. Monsieur Coolidge nous rentre là, première tête-tu-tête. Puis, pourquoi est-ce que l'Amérique rentre en Prohibition? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question?
Ah, ben, pourquoi? C'est que, à leurs yeux, à eux, c'était le noyau du vice, que ce soit avec la violence conjugale, que ce soit avec les blessures au travail, l'absentéisme au travail, l'incompétence, à toutes les sphères de la société démographique, ils l'amenaient sur le fait que c'est la justification, c'est l'alcool.
Oui.
C'est l'alcool est le responsable de toutes
ces atrocités. Mais pourtant, l'Amérique est bâtie sur l'alcool.
C'est ce qui est drôle.
George Washington avait une routine que avant une discussion politique, on doit prendre un whisky chaud.
C'est impératif.
Quand c'est fini et on s'est entendu, on prend un whisky à nouveau.
C'est comme ça qu'on fait les affaires.
C'est comme ça qu'on fait les affaires. Ouais. Dans les années début 1800, là, début 1800, dans le sens des belles histoires des pays d'en haut, ils n'existent même pas. Là.
Non, c'est ça.
Le temps des cow-boys, là,
oui.
Mais les hommes qui travaillaient justement dans l'industrialisation, qui n'existe pas beaucoup encore, mais il y a quand même de la manufacture ou dans les fermes agricoles, il y avait les beer boys. Les beer boys, c'est un petit garçon qui était engagé à venir à 10h le matin pour donner de la bière aux gars. Il revenait à 1h l'après-midi pour redonner encore de la bière aux gars, puis à 4h, c'était de la dernière bière. Puis les hommes travaillaient 12 heures par jour. Mais ça veut dire que tu étais un buzz de bière toute la journée. Là.
Oui.
Mais des fois, les hommes étaient payés en alcool.
Colin, les artistes des années 90.
Ouais, comme les humoristes, là, ces gens-là. Là,
à qui coup de pichet.
Sont là. Là avec,
mais nous, on ne connaît pas ça parce qu'on est en 1933.
Non, nous.
On n'est pas rendu là encore.
On rit du crime.
Mais on connaît le bon Martini.
Mais encore là. On n'aurait pas le droit.
Non, exact.
Tout ça est contre la loi.
Exact, ah oui.
La loi de la tempérance.
Ce n'est pas seulement aux États-Unis que ça allait dans cette lancée-là. Parce que même à l'époque, le premier ministre, qui était notre 13e premier ministre du Canada, avait mis Lomer Gouin, avait mis pendant 2 ans que l'alcool était illégal aussi. Donc, il y a eu une tentative là, au Québec et au Canada d'aller dans ce sens-là.
Est-ce que le Québec a eu des années de prohibition?
Ben, c'est eux autres, ça a été le moins touché. Là. Dans le reste du Canada, ça a 100% été relié à ça.
Ils ont eu des prohibitions.
Mais au Québec, c'est parce que faut croire qu'on était des rebelles dans l'âme ou on n'a pas compris les consignes en anglais, mais du
les
moins...
Les patriotes de boivent quand qu'ils veulent.
C'est ça, exact. On peut pas dire non à un patriote.
Jamais.
Donc, ça crée ça. Une épopée.
Incroyable.
Hein? Oui.
Incroyable. Je sais que les Canadiens, vous avez fait...
On a contribué.
Vous avez contribué en tabouette à la prohibition.
Oh, oui, oui. La prohibition, elle a écopé. Parce que faut comprendre quand même que nous-mêmes au Québec, là, ça a été un enjeu où ce que dans 80-90% des municipalités sont tombées en ville sèche à une certaine époque où ce que il avait mis une loi par un référendum où ce que chaque ville, chaque municipalité individuellement pouvait décider s'ils allaient rendre l'alcool disponible ou non sur leur territoire. Fait que là, ça a créé une situation où ce que la ville de Hull et la ville de Montréal sont devenues des plaques tournantes de l'alcool, puisque Hull, bon, proche de Ontario, bien évidemment, non, et Montréal, on a quand même aussi l'élément qu'en Montérégie, on est très proche des douanes américaines au niveau de l'Estrie et la Montérégie. Donc là, ça l'a stimulé là. C'est vraiment une situation d'environnement pestel où ce que le législatif a changé la donne et qu'on interdit l'alcool aux États-Unis pendant une décennie et que là, on crée un marché qui n'aurait pas existé. Parce que tu sais, en 1912, là, oui, tu peux faire de la boboche ou faire de la petite alcool, mais il n'y a pas de raison de te faire une business là-dedans, que je devienne un entrepreneur de la contrebande.
Exactement. Puis il n'y a même pas la business que toi, ta boboche est dégueulasse. Il faut quand même te l'acheter.
C'est ça.
Puis on va mettre du jus de raisin avec.
C'est ça. Non.
Fait qu'on va faire des mini gins spéciales.
Il n'y a pas de ça.
Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Et sans la prohibition, il n'y aurait pas eu d'Al Capone. Il n'y aurait pas eu de crime organisé. À New York, dans le nord-est de l'Amérique. Zéro. Parce que c'est ça qui est arrivé. C'est que le pauvre petit Capone, pris dans cette situation, dans cette circonstance-là...
C'est quand même une enfance, une adolescence pas plaisante. Là. Tu te sens pas épanoui là, de vivre dans la pauvreté comme ça.
C'est ça, exactement.
Fait qu'il a dû sortir des chantiers battus.
Ouais, il devait avoir ça un peu dans lui
Ah,
aussi, là.
c'est sûr.
Parce que là, il a commencé, dès l'âge justement de 14 ans, à traîner avec des petits gangs, des petites choses comme ça. Et directement à 14 ans, quand il se fait crisser dehors de l'école, excusez pour le sac, ça ne se fait pas, mon Dieu, pardonnez-nous. Je vais aller à l'église, puis je vais me
Au
faire pardonner au confessionnal.
confessionnal.
En fait, c'est qu'il a frappé sa professeure. Il aurait dû aller à l'église lui
Première
aussi.
instance de
Première instance de
violence.
violence, il a frappé une dame professeure. Il s'est fait mettre dehors de l'école. Il n'a jamais retourné à l'école. Il a commencé à travailler avec des gens un peu plus louches. Et il est rentré dans un groupe qui s'appelle les Five Points.
Oui.
Mais il ne savait pas dans quoi il se rentrait. Ça s'appelait les Junior M.
OK.
Mais il ne savait pas que c'était les Five Points. Parce que,
C'était relié à ça.
exactement. Parce que c'était relié à Manhattan. C'est pour ça qu'il
Oui.
s'appelait les Junior M. Mais genre, qui lidait les Five Points? Un dénommé Toroyo.
Oh.
Toroyo était le godfather des Five Points. Et Capone commence à travailler pour lui dès là, et il commence, et ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il travaille dans un bar, le Harvard Inn, qui est à Manhattan. Une soirée, il est en train de. Il est barmaid et doorman de temps à autre, mais surtout barman. Fait qu'il commence à se gagner des galons là-bas, puis il commence à rentrer, faire confiance à tous ces gens-là du monde interlope. Une soirée, il y a une dame très très jolie, elle a un décolleté, son buste est un peu
Révélateur.
révélateur. Et il dit un commentaire, un compliment que lui, il croit qu'il n'est pas désobligeant, mais qui est complètement désobligeant. Puis tu ne dis pas ça à une femme, même aujourd'hui, à ce jour. Ça donne que le frère de la dame est dans l'endroit.
Oh là là.
Le frère prend son couteau et entaille le visage d'Al Capone 3 fois.
Devient balafré.
Balafré. Où ce qui a son nom, le fameux Scarface. Parce que, tu sais, les films qu'on voit à la télévision, Scarface, Goodfellas, Untouchable, c'est tout inspiré de ce motherfucking Al Capone.
Oui, c'est l'incarnation même de cette era-là.
Oui, he is the gangster, le GOAT, c'est Al Capone.
Exact.
Puis là, c'est incroyable. Là, la déchéance commence pour Al Capone. Parce qu'en plus de devenir notoire, il aime ça. Il
Il
aime
prend
être reconnu.
goût.
Il prend goût.
Oh là là.
Et il adore ça. Et là, Johnny Torrio lui dit, tu sais quoi? Il va y avoir une opportunité pour toi à Chicago. Il faut que tu t'en ailles de New
L'envoie à
York.
Chicago.
Mais il commençait à faire de la merde aussi,
ben
à
c'est
New York.
ça, hein, parce que là si lui ça se passe à Montréal pas mal à New York
Oui.
si l'envoie à Chicago c'est plus pour l'enlever du chemin.
L'enlever un peu du chemin, puis sûrement aussi parce qu'à cause que de la prohibition, Chicago, Philadelphie sont devenues des villes qui sont très importantes pour rentrer le
c'est vrai
bootleg. Que New
exact
York est très loin des grands lacs, mais
oui
Philadelphie, puis Chicago, ça aurait pas été Philadelphie, là,
oui c'est
mais
vrai
c'est pas été ça du tout.
non lui
Il l'a envoyé
c'est
à
ben, c'est
Chicago.
ça parce que c'est vraiment collé là,
Ben
sur
oui, c'est de
les doigts
Windy City en bas du lac supérieur.
exact
Fait qu'il l'envoie à Chicago. Il a 22 ans quand il se fait envoyer à Chicago. C'est pas vieux, 22 ans,
non
là. 22 ans, il est rendu à Chicago et il commence à faire son nom. Exactement là. Grâce à la prohibition, il fait son nom assez rapidement. Puis il se fait pas d'amis, mais il aime beaucoup les journalistes. Il n'a pas peur de parler aux journalistes, Al
Ah oui,
Capone.
c'est ça.
Il s'en va, il est tout le temps
Il est
là.
charismatique,
Il est très
qui
charismatique.
gagne
Il aime
l'amour du
s'habiller.
public.
Oui, l'amour du public, tu dis. Genre, il aime être décrit comme le Robin Hood, le
C'est
Robin
ça.
des bois,
Exact.
des criminels, tu sais, du peuple, là. Mais ça,
À,
c'est.
c'est ça, alors à eux, dans ce temps-là, des temps modernes de 1922,
Ouais,
là,
c'est ça. Exactement. Puis là, tu sais. Mais il est full of shit, Capone. Parce que quand il
Ouais.
arrive à Chicago, il dit que sa cicatrice, il l'a eu à la guerre. Il n'a
Oh,
jamais été à la
oui,
guerre.
il a fait à croire que c'est un
À
vétéran.
tout le monde.
C'est
Parce
vrai.
qu'il détestait ce nom-là de Scarface.
Fait que là, ça.
Ouais. Fait qu'il se faisait appeler Al. C'était le terme. C'était le capot de Chicago. Mais ça a
Lui-même.
pris tellement pas de temps à donner le capot. Parce que, premièrement, Johnny Torrio s'est fait jumper.
OK.
Quelqu'un l'a jumpé. Le
Oui.
terme pour se dire jumper, il s'est fait péter la gueule devant son appartement.
Exact.
Il a tellement eu peur, vu que c'était un homme âgé, il a dit, je prends ma retraite, puis je m'en vais en Italie.
Il s'est retiré
Je me
complètement.
retire. Puis là, qu'est-ce que ça a fait? Il n'y a plus de leader.
C'est ça.
C'est fini. Il n'y a plus personne d'important, sauf Al Capone. Mais il y a un monsieur de Philadelphie, justement.
Oui.
Un Buggins, son nom.
OK.
Buggins, lui, il y a les Outfit Boys, qui étaient un gang que Torrio avait un affilié avec lui dans le temps. Mais maintenant, les Outfit Boys appartiennent à Capone, ceux de Chicago. Mais ceux de Philadelphie sont pas encore, sont comme un peu en guéguerre.
Oui.
Capone veut lui faire la guerre de A à Z. Il veut le tuer. Puis l'autre homme commence à prendre du terrain à Chicago. Mais qu'est-ce que Capone fait? Il organise le fameux Bloody Valentine.
Exact.
Ce que vous
avez Parce que là, entendu. Les gens ont passé, pour certains, des belles Saint-Valentin.
Oui.
Mais il y en a d'autres que ce fut peut-être sanglant, que ce fut weeping, que ce fut triste et révélateur. Mais à l'époque, dans le Capone, cette Saint-Valentin-là fut baignée.
Man, elle a marqué l'histoire américaine.
Absolument.
Parce qu'il y avait des meurtres, là, sans arrêt, là. T'sais, dans le temps que Capone était à Chicago, ils ont compté environ 786 morts. C'est beaucoup là, pour une ville. Là,
oui, oui. Mais ben, Chicago a souvent été la ville aux États-Unis ouais. avec le plus de crimes.
Ouais, ouais,
même encore aujourd'hui, elle est dans ouais. le top 2, top 3 malgré ouais. le temps. Là.
Mais c'est aussi la ville la plus corrompue des
oui.
États-Unis. Ça, c'était weird aussi.
Exact.
Parce que la prohibition n'existait pas dans ce temps-là.
Non, c'est ça.
Je veux dire, Capone contrôlait tellement bien la chose et aussi les familles qui grandissaient à New York. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des familles de crimes organisés.
Ils étaient bien connectés.
Ils étaient bien connectés. Il y avait le fameux Rothstein, Arnold oui. Rothstein, qui devenait un des parrains. Puis, il n'était pas parrain. Le gars, il a dit, moi, je suis pas un criminel. Il voulait être un businessman. C'est il était habillé comme toi aujourd'hui. Il disait, puis il montrait à ses hommes comment être des businessmen. Mais c'était un rat. C'est, ça a l'air qu'il a comme... Il a, comment on dirait ça? Il a joué avec les World Series de baseball.
Oui, contre les White Sox de Chicago, ouais. contre les Red Sox de Boston en 1921. Puis il était impliqué dans
ouais.
une supercherie,
ouais.
pour vu qu'il avait parié sur la partie. Puis je crois que c'est ça, les White Sox de Chicago se sont fait accuser de... Ils ont perdu le titre, je crois, carrément. Ou...
Je sais pas s'ils ont perdu le titre.
Ou mais... ils avaient parié pour qu'ils perdent, eux. Là.
Ouais.
Mais ouais, je pense que c'était plus ça.
Mais lui, il a été un pario après.
Exact.
Donc là, il pouvait plus vraiment faire de business.
Son nom était scrappé.
Un petit peu. Ouais. C'est là où que lui a trouvé son propre poulet.
Oui.
Lucky Luciano.
Lucky Luciano.
Charlie Luciano.
Un nom vraiment à retenir, parce que vraiment. Lui aussi, il va avoir forgé énormément.
On va y venir, mais
la suite des
t'as
choses.
T'as raison. Ah, oh, ouais, 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 ouais.
Ce n'est pas juste un homme de passage. Donc,
non, non, exactement. C'est ça. C'est pas juste un... C'est pas un valet.
Non, non, non.
No. Mais là, Al Capone,
oui.
Le Bloody Valentine, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, en fait. C'est qu'il y a un appel qui est envoyé à la gang de Morgans, son groupe, en disant, on a trouvé un stash à Capone, on va vous le vendre. Non, oh, on va vous le vendre okay. pour pas cher, on l'a en camion.
C'est ça, faut que ça parte vite.
Faut que ça parte vite, faut que ça se débarrasse.
Exact.
Fait que là, les autres font, hey, en plus, que oh, ça va le faire chier, on va avoir un bon deal. OK, rejoins-nous dans un des garages, qu'il est à nous, genre undercover, puis parfait. Fait qu'ils se rejoignent là-bas, ils font l'échange des barils. Pendant qu'ils font l'échange des barils, il y a 5 policiers qui pull up. Oup! Ils arrivent, ils rentrent dans le garage. Ah, oh, là, les gangsters sont comme... Oh, les mains hauts! Ah, oh, tabarouette! Parce qu'ils sont tellement habitués de les briber, de leur payer, de le... Tu sais,
les
termes en français, là. Ouais, j'ai regardé tellement de shit en anglais.
Soudoyer les soudoyés à coup d'argent.
Ouais. Qu'ils font comme, on va jouer le jeu, puis s'il y a des journalistes, on va se faire arrêter, s'il n'y a pas de problème, c'est beau. Puis après ça, ils vont nous libérer.
Exactement.
Mais non, c'est pas ça qui arrive.
Non,
non,
non.
Les policiers chargent leur mitraillette ouais. et tuent les 7 hommes. Trrr. Là, vous allez dire, c'est juste 7 hommes parmi toute cette gang-là. Non, c'était que, en fait, c'était la première fois que les médias le voyaient. Oui. Tout le blood que ça faisait tomber, ça.
C'est vrai.
Que là...
Ça n'avait jamais été médiatisé avant.
Non.
Avant.
Puis que la police, c'était pas des vrais policiers.
Ils étaient déguisés.
Ils étaient déguisés. Les hommes, tu sais, ça a l'air que tu peux te déguiser. Non?
Oui. Étonnant, hein, ça paraît. Ouais. Qui l'a cru?
Puis là, les hommes ont tué ces 7 hommes-là. C'était complètement atroce. Ça a l'air que les photos, vous pouvez les voir sur Internet. Tout est là. Et ça a changé l'image de l'Amérique parce que là, les médias sont plus d'accord.
C'est ça.
Et le gouvernement commence à ne plus exact. Suivre cette chose-là.
L'effet Robin des Bois que Al Capone était en train d'aller chercher ouais. se dissuadait. Là.
Se dissuadait.
Oui.
Il commençait déjà à faire un dossier sur son cas.
Exact.
Parce que le gars, c'est un malade.
C'est à partir de là qu'on se fit engager. Parce que quand tu as un gros poisson à aller chercher, il faut des inspecteurs, des enquêteurs de renom.
De renom. Tu veux la pomme de la pomme, exact. La crème de la crème.
Donc, le gouvernement téléphona à mon comparse et moi pour qu'on puisse enfin stopper ce Hall. Mais ce Hall-là, Tu te sens un peu comme Tom Hanks dans Catch Me If You Can, hein?
Un petit peu.
Il pas durant le récit, vous allez comprendre qu'il nous a fourvoyé. Il nous a fourvoyé très souvent.
Oui. Il nous a glissé entre les doigts.
Ah oui. Puis c'est vraiment pas à défaut d'avoir fait très peu de business ou avoir resté dans les l'ombre. C'était l'Eldorado. Montréal, la coque coulait à flot. Il y avait... Du côté, si on parle d'alliés notoires à Al Capone, nous, au Québec, on avait quand même un Léopold Lafrenais.
Lafrenais.
Surnommé le Frenchie. Oh. Qui est devenu, avec les années, qui était un contrebandier notoire. Puis, il était le chauffeur personnel d'Al Capone durant son ascension. Lorsqu'il était rendu à l'étape d'avoir son chauffeur, là, fait que lui, ça en a été un qu'on a eu. Je veux dire, au Québec, c'est devenu une profession. Mais une profession où ce que tu peux être autant boulanger de jour, mais que t'es bootlegger de soir, c'est ce qui s'est mis à se créer là, ouais. de l'autre côté. Parce qu'il faut comprendre qu'on était le fournisseur. C'était bon, nous, la connexion.
La connexion.
C'est
The French Connection.
En fait, c'est ça. Les premiers vestiges, la French Connection, oui. C'est ça.
Ça vient de là.
Exactement.
Mais parce qu'il n'avait pas d'alcool sinon.
C'est ça.
Il aurait fallu qu'il brew en Germanie,
oui.
En Allemagne, puis qu'il amène ça par les océans.
Exact. Puis là, ça augmente tes coûts d'exploitation énormes, tout ça. Puis ta rapidité de te refourner tes supplies.
Exactement.
Parce que là, nous, ça pouvait rouler à la planche. Oui. Parce que nous, c'est parfaitement légal qu'il y ait des distilleries, puis on fait du whisky, on fait du vin, on fait de la bière, puis ça y va. Donc, ça a créé une époque prospère, là. Pour le Québec, ou est-ce qu'il y a d'autres joueurs, là, comme...
Tu es en train de me dire que le Québec était mieux pendant que les Américains étaient en prohibition. On était le moment le plus...
Ah oui, mais ben c'est ça, parce qu'on était comme leur nerf angulaire, là.
L'argent dans nos poches.
Exact. Oh, man, amplement, là. On a eu des joueurs, là. Nous, là, au Québec, on a eu des joueurs comme Conrad Labelle, que lui, là, durant ses pics de ses contrebandes, il pouvait faire des nuits à 80 000 $ à l'époque. Quoi? Pas en dollars d'aujourd'hui, là.
80 000 $ par nuit.
Exact. Une grosse nuit, là, de livraison de whisky, tout ça.
Ça, c'est deux chalets au Hampton.
Ben, tu le dis. Fait que c'est sûr que, tu sais, t'es des années 20, vers les années 30, c'est facile de succomber à ça dans un monde où ce que même s'acheter une voiture, ça ne coûte même pas 2000 $.
C'est incroyable.
Donc, tu deviens surriche, là. Fait que c'est certain qu'après, tu te procures des belles montres, de l'alcool encore plus haut de gamme.
Ben
tes habits, maintenant, sont faits sur mesure.
Ben oui.
Tu fais pas...
Tu n'as plus de veste à ton père.
Non, exact. C'est fini, là, emprunter la veste du daron. Il n'y a pas de ça.
Fini.
Non.
Fini.
Tu es un self-made.
Parlant d'argent, savais-tu combien Al Capone faisait dans une année pendant l'heure de sa gloire?
Plus que 80 000 $.
Incroyable, hein?
Oui!
Il faisait 100 millions de dollars. Incroyable.
C'est fou.
Oui.
C'est parce que c'est vraiment... côté criminalité, là, s'il y a seulement eu Pablo Escobar là, qui a atteigné des sommets comme ça, là lui, on parle d'une époque où il n'y a pas prospérité. Les années 20, là, c'est vraiment pas la joie. Là, la vie est difficile.
Oui. Tout ça. Là, on n'est même pas encore dans la Grande Dépression. Là.
Non.
Exact. Là, on est juste au début de la prohibition.
Exact.
Et comme tu viens de le dire, les gens n'ont pas d'argent.
Oui.
Comment est-ce qu'ils peuvent faire 100 millions de dollars? C'est que les gens veulent la boisson pareil.
Exact.
Incroyable.
L'alcool coule à flot.
Puis là, comme tu viens de dire, un auto ne coûte même pas 2000 $. Acheter une maison ne coûte même pas 10 000
$. Exact.
Là, le gars, il fait 100 millions de dollars. Ça lui coûte environ 25 millions de dollars à juste rouler tout puis payer tout le monde.
Les opérations.
Fait que ça veut dire que tu as 75 millions de dollars qui rentrent dans ta poche. À chaque année.
Ouais. Tu peux soudoyer des gens à l'infini.
À l'infini.
Oui.
Tu peux devenir président des États-Unis.
Si oui.
Tu t'es élu, puis tu vas devenir le 45 puis le 47 en même temps.
Oui.
C'est incroyable avec l'argent.
Les deux en un.
Mais franchement, il y a des fortunes qui se sont bâties pendant la prohibition.
Exact.
Fun fact about that.
Oui.
Le grand-papa Kennedy. Il a créé sa fortune pendant la prohibition en faisant deux speakeasy et un salon.
C'est ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui se sont mis à faire ça.
Ouais.
Des speakeasy.
Si vous ne savez pas c'est quoi un speakeasy, dans le fond, c'est ça. C'est un bar clandestin.
Exact.
C'est un endroit que...
Parle-en pas trop.
Speakeasy, parle-en pas, c'est ça. shut the fuck up. Oui. Il y a des termes que la prohibition a amenés, comme tu as dit tantôt, des bootleggers.
Oui.
Ça vient de où, ça, le bootlegger?
Oui, c'est que pour dissimuler leur alcool, tu rentrais ça dans ta botte, la bouteille carrément.
Oui.
Fait que là, tu portais une pointure ou deux plus grande que ta réalité, tu te fais quelques ampoules,
oui.
Mais tu as emmené ta boisson.
Man. Il y avait des façons de cacher l'alcool. Les dames ou les personnes âgées avaient des cannes hollow qui étaient vides à l'intérieur, puis ils se dévissaient. Tu remplissais l'alcool là-dedans, puis tu as tout le temps ta canne.
C'est sûr, là.
Incroyable. Ouais. Ou tu as déjà entendu d'histoires où que les bootleggers, les moonshiners surtout, ils se mettaient des sabots de vache en dessous des souliers.
Ah,
tu as déjà vu ça?
Oui, les dans la neige ou les traces. Là,
ouais, ou dans la boîte, parce qu'ils ne voulaient pas que les policiers les retrouvent.
Exact.
Fait que, brillant, les messieurs. Là.
Ça, c'est fou. Tu développes ta créativité au nom du quoi? De l'appât du gain.
Le gain. Mais là, ce qui est arrivé avec l'alcool et la prohibition, c'est que empêche les gens de faire quelque chose, ils vont le faire tous les astis week-ends.
Oui, ça va manquer de docilité. Les gens, tu ne leur interdis pas. Oui. Même ceux qui ne voulaient pas boire se sont mis à boire.
C'est drôle que tu dises ça, parce qu'avant la prohibition, il n'y avait pas d'alcoolisme chez les femmes. C'était pas recensé.
Ça n'existait pas.
Pendant et après la prohibition, il y a eu l'alcoolisme chez les femmes. Parce qu'en fait, c'est qu'avant la prohibition, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans toutes les tavernes ou les endroits publics où ce que les hommes allaient.
Exact.
Ils pouvaient y aller, mais ils ne pouvaient pas se laisser aller. Mm-hmm. Tu comprends? Ou prendre trois verres de whisky.
Ça, il y avait une retenue continuelle.
Exact. Mais là, si c'est illégal juste être ici, ça ne dérange pas que ma femme est en train de se chouler à côté du bord avec la tienne. Parce que tout le monde, on n'a pas le droit d'être ici.
On est déjà des brigands.
Et voilà. Puis il y a un excitement là-dedans.
Exact.
Qu'est-ce qui arrive? C'est que les dames commencent à consommer de l'alcool. Puis les messieurs continuent à travailler beaucoup. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à boire à la maison aussi. Là.
Mm-hmm.
Fait que là, ils commencent à avoir ça, des problèmes d'alcoolisme chez les femmes. Et là, vient aussi la Temperance Union Woman Christian, la Christian Union Temperance of Women, qui était l'idée par l'Église catholique, et une dame qui s'appelait Carrie Nation. Puis je ne sais pas si tu sais l'histoire de Carrie Nation. Si vous ne savez pas l'histoire de Carrie Nation, c'est une badass. Je vais vous décrire Carrie Nation. C'est une madame. Elle fait 5 pieds. Elle a peut-être un peu des roots amérindiennes, mais elle mélangeait avec l'Irlandais. Elle a marié un vieux monsieur, qui était beaucoup plus vieux qu'elle. Un ivrogne. Qui ne donnait pas une scène. Il allait dépenser tout son salaire qu'il gagnait dans la ferme où il travaillait, à taverne. Puis quand il arrivait à la maison, il était violent, le stiffy. Fait que sa femme, Carrie Nation, la petite dame, pauvre elle, elle ne sait pas quoi faire. Puis elle ne peut pas ramasser son mari.
Exact.
Elle est à bout un vendredi soir quand il revient de la taverne. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la hache, Carrie Nation.
Oh.
Puis elle est allée à la taverne du village de Wichita, Kansas. Puis elle a pété toutes les bouteilles.
Les barils, toutes.
Mais imagine-toi donc, elle est devenue une idole.
Ah ouais?
C'est pour ça que la Temperance Union of Women Christian l'ont pris comme porte-parole. Puis là, elle a fait le tour des États-Unis, Carrie, avec sa hache, puis des femmes. Puis là, ils ont commencé à protester.
Oui.
Puis imagine-toi donc, ils ont commencé à protester devant des tavernes un peu partout. Il y en a une qui a été flagrante, c'était à Washington, où ils ont fait une parade. Puis ils allaient protester devant des tavernes, où même les propriétaires étaient comme là, vous nuisez à mon business. Puis eux autres étaient comme, non, on proteste. Puis c'est là où c'est la première fois dans l'histoire américaine, ou du moins de Western, de l'Occident, que des femmes ont créé un regroupement comme ça,
exact.
Qui a changé l'histoire de l'Amérique, qui a changé complètement. Oui. Parce que si eux n'avaient pas fait ça, le gouvernement ne les aurait pas appuyés.
C'est ça, c'est que là, ça a fait une vague de pression.
Puis là, ce que je te parle, elle, c'est en 1900, là, ce qui s'est passé.
Oui.
Mais là, après ça, tout ça en est coulé au Volstead Act, comme on disait. Puis là, l'Église catholique...
Parce que c'est ça, cette pression-là vient à se dire, ben dans le fond, le noyau du problème, c'est l'alcool. C'est normal que dans ce temps-là, tu te dis, mais t'enlèves l'alcool de l'équation, il n'y en a plus de problème.
Il n'y en aura pas.
Exact, il n'y en aura pas. Puis tu sais, en même temps, les décideurs de ce temps-là, législatifs, au final... Ils se disent, écoute...
Un peu comme nous, on travaille pour le bureau, puis on a le droit de faire... On fait ce qu'on veut, nous.
Non, parce que c'est ça, on est des représentants de l'État. Ce que nous faisons, c'est pour le bien de la société.
C'est ce que je dis, pas ce que je fais.
C'est exactement ça. Donc, il s'est mis à avoir vraiment comme un clivage dans la société où ce que tu avais ceux qui étaient opprimés par ces obligations-là légales, et tu as tous ceux dans les années 20, dès le début de la prohibition, où ce que c'est devenu le party total.
Le party total.
Oui, même à Montréal, le red light s'est créé sur ce concept-là, où ce que dans le fond, les États-Unis, c'était... Tout le monde voulait aller là. C'était la place que t'es pas trop loin. T'es comme à 5 heures de New York quand même en auto. Bon, à l'époque, c'était un peu plus long, là, mais à cause que les autos étaient moins performantes, mais du moins, t'es pas très loin pour aller revirer un sacré week-end.
Ouh, yeah.
Fait que c'était les premiers vestiges de la folie de la Formule 1, mais à une époque où ce que là, c'est pour l'alcool, les maisons closes. Puis c'est vraiment fou, là, parce qu'il faut comprendre que sur la ligne des douanes américaines et canadiennes, c'était ça le classique où ce que d'un côté, le côté du Canada, du Québec, t'avais la section distillerie où ce qu'on vend l'alcool, et de l'autre côté de la maison qui franchait le chemin à cheval avec la douane, c'était un bordel. Donc, tu avais des gens qui se créaient une double business où, que dans le fond, la clientèle vient d'un bord puis a fini ses soirées d'un bord. Fait que c'est incroyable. Là.
Brillant.
Il y a eu des sacrés d'entrepreneurs.
Terrible.
Sale pêcheur.
Terrible.
Mais il y en a eu des terribles au Québec. Parce qu'on avait Léopold, comme je te parlais, qui a aidé dans la cause. Mais il y a aussi un autre que lui, il venait de Rivière-Bleue, puis c'est Alfred Lévesque, que lui, là, à son apogée, il y avait 2000 contrebandiers sous sa gouverne. Fait que, tu sais, c'est monté un organigramme, là, quand même. 2000 contrebandiers, il y avait 800 employés, fait que pour les stocks, rangés, les barils, tout ça. Puis il y avait une flotte de 500 véhicules à son pic qui opéraient pour la business. Puis là, ça, c'est juste trois exemples parmi tant d'autres. Il y en a eu des dizaines et des dizaines de gens, parce que c'était ça le Klondike. T'sais, chaque époque, chaque génération, on a nos choses qu'on se dit « Hey, ça, c'est le futur. » Comme là, à un moment donné, il y a une renversée vers le lithium, parce que la montée des batteries, ou une autre époque où c'était autre chose. Mais cette époque-là, c'était le nectar de l'alcool.
Le Satan's Juice, ils appelaient les catholiques.
Ouais, qui menait la danse.
Mais tu vois, tu t'as dit quelque chose qui est très important. Tu as dit, il y en a beaucoup de joueurs là-dedans, des acteurs qu'on ne voit pas parce que le crime, ils savaient que c'était criminel, même les Canadiens, mais un criminel ne voulait pas d'éloge. Il ne voulait pas être connu.
Exact.
On parlait de Lucky Luciano.
Oui.
Lucky Luciano, lui, il trouvait ça aberrant que Al Capone voulait être devant tous les appareils photo.
C'est vrai.
Il disait, c'est pas normal.
Ben, c'est parce qu'habituellement, c'est pas ça. Là. Les pas consignes, ça. C'est que tu travailles dans l'ombre, tout ça, tu réussis à pas trop te salir les mains.
En théorie.
T'as des sbires qui s'occupent de le faire pour toi.
Oui, t'as des goons, c'est ça.
Exact, ça sert
à ça. Ça sert à ça.
Puis tu ramènes pas les caméras. Ramener les caméras égale ramener la chaleur sur soi, avoir plus de facilité à se faire reconnaître.
Ben oui, mais donc, il voulait se faire reconnaître.
C'est ça.
Il était arrogant, mais quelque chose d'arrogant. Mais il était tellement arrogant puis tellement influent, man, qu'il est devenu le propriétaire de tous les gambling grounds de circuits de chevaux aux États-Unis. Mais là, fun fact, il n'y a pas de circuit de chevaux à Chicago.
Non.
Mais il est propriétaire de tous les revenus de tous les circuits de chevaux aux États-Unis qui se font. Même en Louisiane.
OK, il avait acheté tout. Il avait fait tellement d'argent.
Il a fait tellement d'argent. Personne n'avait d'argent comme lui.
Non, c'est
pas
ça.
Pas encore.
Exact.
Parce que là, il allait avoir des politiciens qui allaient commencer à faire beaucoup, beaucoup d'argent.
Oui.
Parce que avant la Grande Dépression, on comprenait pas trop l'économie.
C'est ça.
Parce que c'est arrivé, ça. La Grande Dépression, si vous ne savez pas, en 1929, le Jeudi noir.
Oui.
Ça a
énorme
été...
crash boursier historique.
Historique.
C'est plus que des gens qui ont perdu leur chemise.
Ah,
là.
Oui, oui.
C'est des gens qui ont sauté des hauts des toits, tout ça.
Perdaient leur maison, perdaient leur ferme.
Tout perdu.
Tout perdu.
Ah, oui. C'est...
Les pauvres.
Incroyable.
Simplement parce que personne ne comprenait l'économie.
Ben c'est ça, hein? C'est qu'en même temps, à ce moment-là, de 1929, la bourse existe déjà depuis quand même plus de 50 ans, là, parce que la bourse remonte à un certain temps, pareil, où que les gens pouvaient miser sur des matériaux ou tout ça, mais on est tellement embryonnaire à cette époque-là qu'il n'y a pas encore une éducation financière pointue.
Il n'y a pas de régularisation.
Aucune.
Fait que tu sais pas si quelqu'un fait des délits d'initié.
Exact.
Toi, tu as ta compagnie de fer, puis tu me dis, je vais avoir un esti de bon contrat. Moi, je mets de l'argent là-dedans. Mais si tu me dis que tu vas avoir un bon contrat dans du riz, j'enlève mon argent dans le fer, puis je le mets dans le riz. Fait que là, il y a des gens qui se rendent super riches juste en se faisant des petits conseils comme ça.
Exact.
Mais c'est ça qui allait arriver aussi. C'est qu'ils ont convaincu plein de fermiers puis des pauvres agriculteurs du sud américain à investir dans la bourse. Mais quand ces gens-là aisés, des Rothschild de ce monde-là, ont repris l'argent...
Leur cagnotte. Oui. Le marché crash.
Ils ont crashé.
Ah oui.
Et là, arrive en 1929, trois semaines après environ, le Bloody Valentine. On revient à ça. Suivez-nous.
Oui.
Est élu Herbert Hoover.
Oh, très important.
Très important. Ouais. Et lui, Herbert Hoover, c'est lui qui est en présidentiel pendant la Grande Dépression. Et il ne sait pas comment gérer l'économie.
Non.
Il ne sait même pas comment faire de la politique. Mais pourtant, c'est un millionnaire.
Oui.
C'est un millionnaire qui a réussi à se rendre millionnaire, lui, en travaillant dans les mines en Afrique et en Asie. C'est un géologue.
Okay.
Puis il a réussi à se rendre très riche, justement, en investissant dans des mines. Puis il investissait de son argent à lui. Puis il s'est rendu millionnaire avant la Première Guerre mondiale.
C'est lui qui est devenu le premier président américain à rentrer en poste en étant déjà millionnaire.
Oui. Exactement.
Dans l'histoire. Là.
Yeah.
C'est quand même un gros statement.
C'est un gros statement. C'est aussi un des seuls qui n'était pas avocat, notaire, journaliste. C'est pas un politique.
Il faisait pas partie de la sphère politique.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Puis il y a des choses qu'avant, ça n'arrivait jamais. Là. Ouais. C'est... Oui, il y a eu des situations comme Lincoln qui venaient de nulle part, mais il a quand même grandi, gravi les échelons politiques.
Oui, c'était un avocat.
Ah oui, Lincoln. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas juste son fils.
Non, c'est ça.
Non, c'est vrai.
Fait que tu sais, il a cherché le métier pour connaître le droit, connaître au moins comment discuter comme ces hommes. Hoover, du tout. Qu'est-ce qu'il a gagné, là? Comment il a gagné tous ses lauriers? C'est que pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique avait plus de manger. Tout le monde était affamé, c'était la famine. Et M. Hoover, un grand cœur qu'il a, là, il a pris de son argent et il a nourri la Belgique. Puis il l'a nourri pendant toute la guerre, pendant 50 ans. Il envoyait de la bouffe, puis il savait pas dans ce temps-là comment nourrir un pays entier sans, premièrement, ils n'ont pas de transport, rien. Il fallait livrer par avion, il fallait trouver des moyens. C'était improbable, mais il l'a fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il s'est présenté aux élections. Il a été élu.
Ah, c'est sûr, tu viens de faire un acte qui mérite un prix Pulitzer ou peu importe.
Il devrait avoir un prix Nobel, exactement.
C'est ça. Oui. Fait que là, c'est sûr que tu as une vague d'admiration. Oui. Puis ça en prend pas tant grand que ça, parce que si on fait un parallèle... On revient dans l'état moderne où ce que le président actuel de l'Ukraine, c'est quelqu'un que Zelensky, c'est quelqu'un que, il y a quelques années, comme 2015-2016, c'est un acteur dans une télésérie.
Oui.
Puis dans une des téléséries de son pedigree d'acteur, bien, il joue le personnage de quelqu'un qui s'en va à la course à la présidence du pays. Puis c'est drôle que ça soit arrivé ainsi, mais tu sais, au final, en dehors du fait que c'est un acteur,
ça sonne complot, tout ça.
Zéro un politicien.
On va faire une enquête.
On va creuser là-dessus en temps et lieu.
Yeah.
Mais là, on est encore à l'époque où ce que notre dossier de Hall n'est pas encore... On n'a pas encore bien mis sa main au collet.
Ah non. Mais laisse-moi finir sur M. Hoover, en fait. Là.
Oui.
M. Hoover, pour lui, là, on vient de le dire, il rentre là comme un dieu, il rentre là comme un roi. Il a aidé la Belgique, je suis élu président. Pauvre lui, la Grande Dépression commence et il n'a aucune idée comment gérer. Mm. Il serre la ceinture. Il n'y a aucune conscience et compréhension que quand que ton pays rentre en récession, toi, il faut que tu continues à ingérer de l'argent.
Ça stimule l'économie.
Tu dois stimuler l'économie. Oui. Tu ne vas pas commencer à couper des postes. Là.
C'est ça. Tu ne peux pas faire juste resserrer la ceinture pendant qu'on s'en va déjà en déclin.
Exact. C'est ce qu'il a fait.
L'économie a frappé un mur.
Fait que le pauvre homme qui est rentré là... Avec les éloges. Tout le monde disait, les journalistes disaient du New York Times, ça va être un président qu'on va se souvenir pendant des siècles. Au moins deux, trois siècles.
C'est ça. Person of the year, on va s'en rappeler.
Mais tu sais jamais quand t'es président, qu'est-ce qui va arriver.
C'est vrai.
Tu le sais pas.
Il va y avoir les embûches, c'est ça.
Oui, parce que regarde la preuve, FDR qui est arrivé après ça, M. Franklin D. Roosevelt, après Hoover, lui, il savait pas que la guerre allait arriver.
Non. T'as pas ça à ton agenda, là.
Puis aujourd'hui, c'est un des présidents les plus connus de l'histoire.
Exact. Assez pour avoir son visage sur les pièces de monnaie.
Ouais, oui. Il y a plein de choses qui sont au nom de FDR.
Ben oui, c'est sûr, là. C'est quand même... il fait partie sûrement du top 10 des présidents américains notoires, là.
Oui.
Quand même, c'en est un gros joueur. Oui. Mais c'est ça, c'est que tu peux avoir des mandats qui vont être faciles, mais c'est jamais facile. Mais qui n'aura pas parsemé de, de dépression, d'économie renversante, de pandémie. Il va arriver des choses parfois où que tu peux avoir un... Il y a quelques chanceux qui ont eu peut-être des mandats de la tranquillité. Que c'est un 2 ans ou un 4 ans.
Oui,
que...
mais ça, c'est des présidents, des silent, silent présidents qui appellent. Là. Ça, c'est rien. Ils font rien.
C'est ça.
Même pas des grands projets. Regarde, un des miracles, là, il appelle... c'est quoi? Comment il l'appelle? Il l'appelle le miracle industriel. C'est la Dame Hoover. Je ne sais pas si vous avez la Dame Hoover, qui est une dame dans la rivière du Colorado. On est entre le Nevada et l'Arizona. Est au nom de Herbert Hoover.
En son honneur.
Ouais, en son honneur. Parce qu'il a construit une dame, elle fait 700 pieds de haut.
Ça, c'est un projet de société.
C'est un projet de société. Oh, là. Oui. Cette dame-là réussit à amener de l'électricité. Quand on parle d'une dame, on parle d'un barrage, là, mesdames et messieurs.
Exact.
Là. Ouais, c'est pas une... Cette dame-là est capable d'amener genre d'électricité, sûrement à toute Vegas aujourd'hui, à ce jour-là. Parce que dans ce temps-là, il disait qu'il était capable de faire le Kansas, l'Arizona.
Ben là, tu me fais penser, il faut le ressouligner. Là. Une époque, d'ailleurs, où ce que Vegas n'existe pas encore,
non,
pendant juste, la prohibition.
Juste Atlantic
c'est
City.
Oui, Atlantic City, où ce que là, les choses se passent. Où ce que les casinos, des politiciens très corrompus qui font des deals incroyables. Ils continuent sa faire. Puis ça aussi, New Jersey, c'est pas très loin du Québec. Donc... business s'ensuit.
Business as usual.
Puis c'est que c'est des marges de profit incroyables. Là. Tantôt, je parlais du monsieur à 80 000 dans une nuit. C'est incroyable. Juste pour situer les gens, il y a une époque où un des pierres angulaires de la chaîne alimentaire d'approvisionnement d'alcool, c'était dans des îles françaises où il y en avait une petite île que c'était Saint-Pierre de Miquelon ou Miquelon.
De Miquelon.
De Miquelon, exact.
Je connais. Puis, j'ai été.
Ben oui, durant ton enquête.
Oui.
Oui. Ça, t'as aimé?
C'était beau.
Oui. Ça vaut le détour.
La bouffe est bonne.
Exact. Exact. Mais il n'y avait pas juste la bouffe qui était bonne. Parce que le whisky, il était en mesure de l'acheter 25 cents, d'accord? Puis le revendre sur cette île-là. Et le revendre au Canada 13 $. Fait que juste, exemple, un Québécois qui faisait ce trafic-là...
Non!
Les autres, ils l'achetaient 13 piastres à eux.
25 cents!
Fait que là, ceux de l'île française, ils ont fait un paquet de profits. Hein? Mais là, après ça, même nous qui la jettent à 13 piastres, on leur vend...
22.
C'est ça, super cher. Fait que, tu sais, c'est pas grave que les gens fassent plein de profits quand tout le monde dans la chaîne alimentaire mange.
Il y a ça de beau. Ça tu viens de dire, c'est quoi?
C'est ça qui se passait.
Oui, exactement.
C'était...
Tu vois, ça c'est une très belle analyse de genre, ça sert à rien de mettre des tarifs. Ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde puisse faire un peu d'argent au bout de ce pain-là.
Exact, c'est ça.
C'est vrai.
Pour que tout le monde se retrouve avec des miettes, puis qu'il y a juste une personne qui a la baguette. Là. Non. Mais à cette époque-là, on était très loin encore de Donald. On était plus à l'époque de Frédéric, son père.
Son père, Fred, même là.
Il devait être jeune.
Il était jeune. On était au père à Frédéric.
Ouais, son père, son grand-père était vivant.
Son grand-père était vivant.
Ça, c'est sûr. Oh, oui.
Parce que son grand-père a dû ouvrir le journal le 14 février, puis il a vu le Bloody Valentine.
Oui.
Il a vu les répercussions, et il a vu que l'Amérique s'en allait pas dans la bonne direction.
Non,
pas du tout. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que Capone, il a pris un de ses têtes dirigeantes qui s'occupait d'aller fusiller ces hommes-là. C'est cet homme-là du Bloody Valentine. Et comme il était un grand fan de baseball, il l'invitait à souper. Puis, il a attendu qu'il soit dos à lui, en train de s'allumer un bon des cigares. Et il l'a tué à coup de baseball. Oh. Et ça a fait que ses autres têtes dirigeantes ont compris qu'il fallait puniser, mais du même fait, ils ont fait « Hey, là, il va pas bien le tabarnak. »
Mais non, c'est ça. C'est sûrement ce geste-là qui a créé les scènes mythiques, comme dans certains films où ils ont fait la pause de balle de baseball.
Untouchable, on le voit un peu, mais c'est pas... T'sais, c'est tout romancé.
Exact.
Parce que ça se passait pas, c'était pas classique.
Non, c'est pas ça la vraie scène, mais c'est ce qui crée comme l'idée définitivement. Là,
Les scènes les plus accurates, là, ce qu'on m'a dit, en moins fait, là, c'est un peu de Goodfellas.
Mm.
Une petite partie, mais Goodfellas, c'est plus tard. T'sais, c'est des années 80 de New York.
Exact.
Ou Godfather 1, avec Robert De Niro. Ça a l'air qu'il y a des scènes là, où ils sont dans l'appartement et ils discutent. C'était ça. C'est des gars comme toi puis moi qu'on discute. Mais on n'a pas de Rolls-Royce. On n'a pas ça.
Non, exact. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas encore de... d'organisation, avec un organigramme, puis que c'est comme une entité, là, c'est vraiment une époque où ce que, un peu comme dans les débuts de Lincoln, où ce que la politique, c'est philosophique, on essaye de ramer en direction d'un but. Nous, dans notre cas, ben pas nous parce que nous on est les inspecteurs, mais dans le cas de ces brigands-là, dans le but d'augmenter leur profit sur ces nectars, c'est juste de foncer dans ce sens-là, mais sans rien de plus, là, parce que je veux dire, c'est une époque quand même où ce que t'as pas infinité d'avenues. Si t'es pas le niveau à Al Capone, parce que là, tu peux tomber en mode acheter les Blue Bonnets pis tout ça. Mais sinon, tu veux juste mettre du pain sur la table pour que ta famille survive.
Exact. Et t'essaies de pas mourir de l'influenza.
Exactement.
C'est tout. Il y a tellement de marde. En plus, t'es en grande récession. Tu viens de sortir de la guerre. Là, t'es comme, what the fuck is going on? Comment je vais me sortir de tout ça? Tu te demandes beaucoup. Mais Al Capone, là, en fait, là, c'est aussi, après le Bloody Valentine, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gouvernement américain a dit à Hollywood, là, c'est fini de faire que l'antagoniste gagne à la fin. Parce que c'était rendu à la mode, là, que genre, dans les gangsters gagnaient, les cowboys gagnaient.
On a commencé à les trouver cute,
cool. C'est ça, cool. Ouais, les gens les aimaient. Mais t'as raison avec l'affaire de cute. Parce qu'il y avait des femmes qui se lançaient sur Capone, là.
Mais oui.
À cause que c'était un gangster.
Exact, mais il y en a eu, là. Tu sais, comme même John Dillinger. Lui aussi, c'en est devenu un. Que, à un moment donné, c'était l'ennemi public numéro un. Most wanted. Mais que, quand même, dans le cœur des gens... Il y a l'élément un peu Robin des Bois.
Exactement.
Il y en a aussi qui ont idolâtré, là, c'est une autre époque carrément, mais même Jacques Mesrine, il y en a que. À son que tu as un élément qui est charismatique, puis tu parles aux caméras.
T'as même pas besoin de charismatique. Le style malade de Magnotta reçoit des lettres encore à ce jour.
Ouais, c'est vrai.
T'as pas besoin. Ouais. C'est qu'il y a des astis de gens qui sont un peu fuckés dans leur tête. Puis qui trouvent ça un peu excitant, ces gens-là.
Ça les interpelle.
Oui, ça les interpelle c'est parce qu'ils ne sont pas normales.
Oui.
C'est abstrait.
Oh, ouais, c'est marginal.
C'est marginal, exactement.
Oui.
Fait que là, Capone, en plus d'être extrêmement riche, il est charismatique, comme tu viens de dire.
Exact.
Et il est marginal. Mais là, Hollywood se font forcer la main par le gouvernement américain. Là, c'est fini. Esti, vous arrêtez ça. Ils appelaient ça de Hays. Chris Esti, comment ils appelaient ça? FDR a donné le nom, là, en voulant dire, mais c'était de Haze. C'est comme le mode, on met en mode Haze, où ce que là, c'est des héros.
C'est ça, on veut renforcer comme le patriotisme le classique.
C'est ça,
un héros.
Je veux le détective qui gagne. C'est pour ça que les Untouchables et ces affaires-là sont arrivées.
C'est ça. Hein?
C'est je veux le détective qui remporte. Parce que tu sais, le premier Untouchable, il y a un film en 1967 qui a été fait.
Okay. Oui.
20 ans avant celui-là de Kevin Costner.
Ah oui.
Puis c'est ça, c'est où ce que là, on commence à voir les policiers. Qui gagnent. C'est plus les criminels.
Oui, mais parce qu'en même temps, c'est que le cinéma faisait ça parce que ça a été une époque où les criminels gagnaient pour vrai. Tu sais, dans c'est le sens sûr, que en fait, plus souvent qu'autrement, les policiers perdaient puis faisaient sûrement de leur mieux ou à peu près, mais en même temps, c'est difficile de rivaliser avec une fortune infinie. Là. Je veux dire, à coup de policier que tu payes des salaires de crève-faim à cette époque-là, là, puis tu
cliques. C'est le fun, un chalet d'Hampton.
Exact. C'est parce que carrément. Tout le monde a ses façons de se faire acheter, là, que ce soit avec la bouse, que ce soit avec le petit voyage aussi.
Non, le pire, on va le dire, il y a eu des rumeurs avec le président Warren Harding.
Mm-hmm.
Le pire, c'est le sexe.
Le blackmailing par le
sexe.
Oui.
Les hommes qui pensent avec leur pénis. Encore à ce jour, on a ce problème-là, messieurs.
Ouais.
On fait des décisions qu'on devrait pas.
Exact.
À cause de notre
Oui. Puis là, ça, c'est une époque où il y avait quand même un grand marché aussi chez les dames de prostitution. Donc, ça fait que tu peux avoir vraiment des... que c'est target, là, c'est délibéré que, hey, il faut que tu ailles voir ça. Il y a eu des présidents qui ont passé là, au cash aussi pour qu'on aille des photos ou un footage qui démontre que cette personne-là, elle devrait plus être en poste.
Mais dans ce temps-là, ça prenait une minute par la photo.
Oui,
ça, il était correct.
C'est mieux d'être... oui, c'est ça.
Non, mais si t'as mis enceinte...
Là, c'est foutu.
C'était ça, les rumeurs de M. Harding. C'est qu'il avait mis une dame de joie enceinte. Ça, c'est terrible, ça.
Non, à cette époque-là, là... C'est pas un diable qui va te sauver de tes péchés, là. Non.
Oh, mon Dieu, bénissez-le. Protégez-nous.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'Hollywood se change. Oui. J'ai un autre fun fact sur Hollywood. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez sûrement pas cet homme-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Roscoe Arbuckles.
Okay.
Arbuckles. Ça dit quoi, Arbuckles?
Non, non, non.
T'appelles-tu dans les jeux comme Red Dead Redemption ou dans les films de cowboy?
Ouais.
À place de café, ils disent du Arbuckles parce que c'était la compagnie. C'était comme du Nescafé ou oui, du...
Du Five Rose, mais Five en café. Rose,
en café.
Ouais.
Mais ça s'appelait « Hey, I'm gonna take a cup of Arbuckles ».
Ah, oh, ouais.
Ça s'appelait du Arbuckles. C'était comme c'était une marque de café tellement connue.
Oui.
Mais qu'est-ce qui est arrivé en 1921, imagine-toi donc? C'est que les médias commencent, à cause d'Al Capone, on oui, reste là-dessus, exact. Les médias commencent à aimer les tragédies. Mmh. Ils aiment ça. Les oui, tragédies, ça vend.
Exact.
Plus que les belles histoires.
Exact.
Mais cet homme-là, Roscoe Arbuckles, imagine-toi donc, il a fait l'irréparable. Une fête du jour de l'an, ils sont à San Francisco en 1921. Et il viole une femme. Mais son surnom à Roscoe, c'était Fatty Arbuckles. C'était un gros monsieur, qui faisait des films vaudeville. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi des films vaudeville, c'est des films silencieux.
Ah, OK.
Des films silencieux. Il a fait 150 films. Il était rendu à l'âge de 24 ans, puis il avait déjà fait 150 films. Il avait commencé à 14 ans.
Okay, comme acteur dans les films.
Oui, ouais, ses parents l'ont quasiment vendu à Paramount pour vendre.
C'est ça.
Oh, oui. Il a fait 150
films. Enfant de la télé.
Ah, un peu, mais de ces années-là.
Oui, oui.
Tu sais? Puis, il faisait assez d'argent. Il avait $1 million dans ses coffres.
Mais c'est déjà énorme, là.
Oui, mais comparé à Capone, on ne dit rien. Mais non, genre, ouais, c'est ça. Mais c'est plus qu'un salaire de fédéral.
Ah oui, d'inspecteur.
Mais il faisait $1 million. Il viole cette fille-là. Imagine-toi donc. Pouf, pouf, pouf. 3 jours après, elle meurt.
Ah. Oh.
Elle meurt. Là, lui, il est en panique.
Ben oui.
Arbuckles. En panique. Paramount est en panique parce que Paramount, là,
oui,
qui est une société de production de films,
exact,
avait jamais vécu ça, une crise comme ça.
Non, c'est ça.
Une gestion de
ils
n'ont
pas de département de PR.
Non, c'était jamais arrivé de la vie.
Exact.
Imagine-toi, dans l'autopsie, ils ont réalisé, c'est quoi, pauvre fille, man. Là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, j'ai le cœur qui m'a serré. Il a éclaté à vessie.
Ah, oh, ouais.
Il était tellement gros que quand il l'a violé, il l'a écrasé.
Ah. Oh.
Et il lui a éclaté la vessie.
Okay,
et bon, la fille, elle a souffert atrocement pendant trois jours. Mais là, c'est devenu les nouvelles.
Ben oui.
Arbuckles a tué quelqu'un.
Fait que là, ça a fait un effet un peu comme à la Bloody Valentine.
Exactement.
Puisque là...
Exactement. Premièrement, on n'a plus jamais appelé des cafés Arbuckles des Arbuckles.
Oui, ça a disparu.
C'était du coffee. C'était disparu. Même la marque, peut-être qu'elle a perduré, mais je ne sais pas. Cet homme-là a perdu la tête. On ne l'a plus jamais revu.
Ouais.
Il a disparu. Mais ce qui est incroyable, c'est que depuis ce temps-là, les médias avaient compris, et même Hollywood, que c'était les tragédies qui allaient fonctionner. Il fallait qu'on se concentre sur ces tragédies.
Oui.
Il fallait un peu aussi, il parlait que pourquoi que le Titanic a été médiatisé comme ça,
oui,
c'est que c'était une belle tragédie. C'était une belle histoire.
C'est
terrible.
Oui, ben parce que c'est ça qui fait que ça se propage comme un feu de forêt.
C'est sûr.
C'est que, parce que sinon, pourquoi les tragédies, les événements qui ne sont pas des tragédies, se promèneraient d'État en État ou de pays en pays? Parce que c'est ça qui fait vendre,
ouais,
même encore aujourd'hui, si on monte dans l'autre
moderne.
Mais
c'est devenu comme ça à cause de ces affaires-là.
C'est cette épopée-là
qui a créé ça. À cause qu'on si on mettait sur un piédestal des gangsters.
Oui.
Parce qu'on se disait, c'est excitant.
C'est excitant.
C'est excitant. Mais malgré tout, le gouvernement américain, ils l'ont fait tomber, Capone.
Exact.
Et les médias ont aidé ça.
Et ça, on peut s'en targuer. On a contribué, nous, à ça.
On a travaillé beaucoup.
Ouais.
On a fait beaucoup de... On se mérite un petit chin, du
moins. Ah ouais, ça c'est certain, là, quand chin. Même. Parce que...
La sobriété est difficile.
On très s'entend. Difficile, la sobriété.
Malgré des agents fédéraux, on trouve ça...
Oui, il a fallu le faire, puis pas juste un mois en février. Il a fallu le faire pendant une décennie.
Ça a été quelque chose.
Ah oui.
Ça a été quelque chose.
Parce que aussi l'affaire, c'est que c'est une époque aussi, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de consommer de l'alcool, parce que pendant la prohibition, le prix est élevé. Fait que ça a fait comme l'offre et la demande, là, ouais, principe d'économie classique, parce que là, la demande est dans le tapis, mais là, les prix sont super élevés. Fait que
c'était terrible comme temps. Savais-tu, il y avait des gens qui avaient des vergers, OK? À place de vendre leurs pommes, ils se faisaient payer des prix exorbitants pour avoir les pommes pour faire du cidre.
Cidre, ben oui.
C'est incroyable. Fait qu'à place de nourrir des gens avec leurs pommes, ils étaient comme non, non, non.
Non, on fait pas ça.
On fait pas ça. On va les vendre à des bootleggers ou des moonshiners.
Ben, c'est parce que. C'est la meilleure façon, puis ta matière première, tu peux le faire le plus de profit avec.
Je sais, mais genre, je trouve ça...
Mais c'est quand même aberrant. Enfin, c'est sûr que ça. Puis c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort là, dans leur réflexion de dire que ça l'augmentait, le crime, la violence conjugale, même l'absentéisme au travail. Puis tu sais, là, on parle d'une époque de industrie. Donc, sa chaîne de montage, là, c'est pas le temps d'être showbot. Puis ta Ford Model T, moi, les écrous, tellement sous que
tu,
j'ai.
Tu savais qu'Henry Ford a supporté le temperance puis la prohibition.
Oui, il était pour ça, lui.
Il était 100%
oui,
pour
parce
ça.
Parce que Henry Ford, c'était quelqu'un qui était pro-efficience, efficacité.
Exact.
Et l'alcool, c'est tout à fait le contraire.
Henry Ford avait dit à ses employés, il avait dit, si vous voulez vous déchirer, vous ferez ça le vendredi.
Oui.
Il n'y a pas de ça comme ça.
Oui. Il a aussi dit, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur pour votre Ford Model T, tant que c'est noir.
Oui, c'est drôle. Mais il y avait beaucoup de gens millionnaires aussi qui étaient d'accord. Il y avait M. Carnegie.
Oui, Dale Carnegie,
qui était un homme très aisé, très, exact. Très riche,
oui.
Que lui aussi a supporté ça parce qu'il était comme, non, mes industries, comme tu as dit, c'est très, très dangereux.
Oui.
De travailler avec le fer, l'acier, les chemins de fer, si vous êtes sous tout le temps, les boys, là.
Mais non.
Je veux dire, ça se fait pas.
Hein. Exact. Pour ça, il faut que tu viennes travailler sur un bateau.
Ça, tu fais sous quand tu veux.
Exact. Très le droit. Oh oui. Parce que après avoir traversé cette épopée de décennies, on se mérite quand même des moments. Ça n'a pas été facile, là, être des enquêteurs dans ce temps-là de prohibition où ce que la tempérance était préconisée.
Non, c'était quelque chose. Ah ouais. Qu'est-ce qui arrive ensuite de ça?
Oui.
Je te dis, en 1933, ils font la première arrestation de Capone.
Mais c'est pas là qu'ils succèdent.
Non, ils réussissent pas.
Ouais.
Ils réussissent à l'envoyer en prison à Philadelphie, mais il fait juste 6 mois. Puis il bribe tout le monde.
Parce que dans le fond, ça, l'infraction qu'il fait, c'est pas assez pour lui donner plus?
Non, c'est lui qui décide.
Ah,
il
ouais.
paye un comté, dans le fond, un shérif de comté, puis il dit « Enferme-moi dans cette cellule-là ». Il pense que ça va le sauver,
oui.
la mise aux yeux du public, parce que le public commence à l'haïr de plus en plus.
Ouais, fait que le fait de « Voyez-vous, j'ai pêché un peu pour mes crimes. » »«
J'ai été en prison. » ouais. Mais le gouvernement fédéral, eux autres sont comme « Yo, premièrement, on n'est pas l'État du New Jersey.
Ouais.
On n'est pas l'État de l'Ohio, so fuck you.
Mm-hmm.
Arrange-toi tout seul.
Exact.
Je veux dire, parce qu'on s'en vient pour toi, mon chum. »
Ouais. Ouais, parce que là, c'est ça, c'est que t'es pas juste un ennemi de l'État, tu deviens un ennemi du pays. Là.
Du pays, ennemi public ouais. numéro 1.
Exact.
What the fuck? Mais là, on n'est pas capable de le trouver,
non.
ici. Il n'y a pas de ledger, il n'y a rien, il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de notes, il n'y a rien. Il prend aucune note, cette situation. C'est même pas s'il s'est
excellent écrit. Mémoire,
ouais.
détruit les preuves.
Ouais.
On brûle les documents quand on les a tout de suite. Pas moyen de la mettre au grappin. Puis c'est pas à défaut de... On en a arrêté tout plein de gens, là.
Ben oui.
Des descentes, on brise les barils d'alcool.
On a arrêté Luki Luciano au moins 3 fois.
Exact.
Pour des tentatives de meurtre.
Oui.
Sur des élus. Luki, là, c'était un violent.
Oui, un vrai violent. Beaucoup, beaucoup.
Oui. Puis si vous savez pas, Luki Luciano aussi, dans le fond, c'est qu'il a pris la tête de tous les parrains de New York. Il a fait... Quand son boss à lui... Arnold Weinstein
oui.
a comme disparu de la carte. Il y a des soupçons que Luki était derrière ça.
Exact.
Ou il retourne en Italie. Who knows?
Exact.
Il y avait un nouveau capot qui a pris la place. Un capot veut dire un Godfather. Mais Luki a fait tuer le Godfather. Et il a tué l'autre Godfather qui était son compétitif.
Pour faire sûr, de, en méthode... De,
hey, j'ai coupé toutes les têtes des
gars. C'est ça. Il y a plus, je suis la seule tête.
Je suis la seule tête.
Ah ouais, c'est... Parce que, dans le fond, le 5 points que tu parlais plus tôt, c'est lui qui est tombé à la tête de tout ça.
Exactement.
Les 5 grandes ouais. familles.
Les 5 grandes familles. À l'origine, ils séparaient le Coney Island, Manhattan, Brooklyn, le Queens, puis...
Bronx?
Le Bronx.
Oui.
Merci, exactement. Mais, c'est devenu une grosse place quand que Luki était là.
C'est ça, fait qu'il a comme créé une union.
Il a créé le crime.
Un syndicat.
Oui, parce qu'avant, c'est ça, un syndicat.
C'est le premier à avoir ouais. créé le syndicat.
Parce que sans Luki Luciano, là, ils seraient tout le temps entretués.
Oui.
Ça serait comme les gangs, ça serait comme les bikes, ça serait comme tout le monde. Ils s'entretueraient. Exact. Mais Luki a fait, non. On perd tout l'argent.
Exact.
Puis le fait...
It's bad for business.
Exactly. It's bad. Quelle phrase que... Monsieur Arnold Weinstein,
oui.
Le mentor de Luki Luciano, a dit
Parce qu'il est dépeint, Arnold Reinstein.
Reinstein.
Il est dépeint dans une excellente série, Boardwalk Empire.
Oui, parlant de Boardwalk Empire.
Qui traite quand même de ces mêmes années-là dans lesquelles nous sommes, la Prohibition.
Oui, si vous voulez regarder quelque chose qui est vraiment là, dans les années, c'est très romantisé.
Oui, très romantisé. Ouais. Puis il faut que tu regardes dans la durée Steve Buscemi, qui est pas trop facile pour tout le monde. Parce qu'il incarne un politicien très notoire dans ces années-là, qui était un politicien prominent à New Jersey.
Ouais.
Puis il était vraiment impliqué dans l'ascension d'Atlantic City, etc. Ouais. Dans la série, ils ont donné un autre nom pour pouvoir plus se permettre d'être romantisé.
Oui.
Mais tous les autres personnages involved, ou presque, sont vraiment des gens notoires. Dont notre ami Al Capone, Lucky Luciano.
Johnny Torrio.
Ça, il est là également.
Il est là aussi.
Rostine est là.
Rostine.
Il y a beaucoup de joueurs prominents.
Costello est là.
Exact. C'est ça. Ah ouais. c'est fait que c'est vraiment historique avec une touche HBO. Puis, effectivement, il disparaît dans la... Dans la série, il nous le présente comme quoi... Parce qu'il y a beaucoup de soupçons que c'est Lucky Luciano qui l'a passé. Puis...
Mais moi, je crois que c'est ça dans les enquêtes qu'on a faites.
Il y a tellement eu de gens. Ouais. Comme nous, ici au Québec, en Estrie, à Coaticook, vers la fin des années 20, le chef de police de Coaticook s'est fait passer, puis on l'a retrouvé aux douanes américaines, puis on n'a jamais trouvé c'est qui l'a tué. Oui. Ils l'ont trouvé sur le...
Quoi?
Oui, fait que sûrement un deal qui a mal tourné.
Non.
Puis lui, il était sur l'escouade anti-bootlegging. Donc, est-ce qu'il était de mèche? Peut-être bien. Parce que c'est sûr que c'est pour qu'on retrouve ton corps sur la ligne des douanes.
Si on s'est entendu à 80 000 par nuit, faut que tu le fasses, malgré que tu es chef de police, puis là tu viens me blackmail, puis tu peux 100 000, je vais trouver quelqu'un d'autre à 60 000.
Il va en avoir quelqu'un d'autre à 60 000. Oh oui, parce qu'on a des petits Frenchies qui le font pour pas trop cher, si on veut.
Les Frenchies, ils font ce que je veux.
Exact.
Ils font ce que je veux, les Frenchies.
On leur paye en dollars US.
On leur paye en dollars US.
Ils adorent ça.
Hey, I'm sure.
Bien mieux que leur monnaie monarchique.
Ouais, je change même peut-être déménager mon chalet des Hamptons pour envoyer ça à Mont-Tremblant. Ça a l'air qu'il va y avoir une nique là, un jour.
Ah ouais.
Des montagnes là, avec des skis. Il
faut être visionnaire.
Je suis visionnaire.
Ben, Al Capone, le problème était il à sa façon. Ouais. Et, je veux dire, il est quand même... Et quand tu te mets en mode, t'as acheté toutes les blue bonnets de course de chevaux. Ouais.
Mais c'est là où il a acheté sa maison qu'il adorait à Palm Beach, en Floride, à cause des chevaux.
C'est là que c'est les chevaux qui l'ont emmené à...
Ben, c'est parce qu'en Floride, il y avait beaucoup de courses de chevaux.
Ouais.
Puis le racketing aussi. Il faisait beaucoup d'argent avec le racketing dans le sud des États-Unis, plus qu'à Chicago. Parce qu'à Chicago, un moment donné, quand t'as fait le tour, là, je veux dire, tu t'as fait le tour.
Oui, exact.
Puis... C'est tes brasseries, c'est tes salons, tu sais, tu peux plus...
Puis c'est une ville aussi où ce qu'eux autres, ils ont leur hiver. Pas comme au Québec, mais c'est pas le parter à longueur d'année. Là.
C'est vrai,
c'est une ville. T'sais, Chicago, c'est une ville un peu comme Gotham, là, dans le sens que c'est glauque, il n'y a pas une journée que personne se fait tuer.
C'est vrai, ça.
T'sais, c'est spécial, là, une ville qui a au moins des coups de feu à chaque jour ou des décès par meurtre à chaque jour. T'sais, c'est pas rien, là.
Ça.
Fait que c'est sûr que ça crée un noyau où tu as envie que ton endgame... Parce que tout criminel notoire et tout gangster prominent doit se dire, à un moment donné, c'est quand mon endgame?
Oui, mais c'est ça leur problème.
Ils arrivent trop tard, le endgame.
C'est là ce qu'on arrive.
Ah ouais.
Parce qu'ils n'ont jamais l'endgame.
Oui. C'est ça le problème.
Il n'y en a pas un. Hein.
Oui.
Ils sont pas capables de voir.
Mais parce que tu deviens tellement... Tu deviens tellement comme à adorer cette vie-là de fast life où ce que nous, c'est juste les grosses bouteilles, les gros restaurants, les services de valet, les femmes, la bouse, tout... Puis que c'est continuel. T'sais, ta vie est un film, long métrage, tout le temps. Que c'est sûr que c'est difficile de se dire, hey, je vais devoir penser à un moment donné à me ranger parce que je vais me faire un peu plus vieux.
Ouais.
Et il va y avoir des nouveaux poulains dans le domaine qui vont vouloir me faire la passe à la Lucky Luciano. Mais en même temps, ça demande de piler sur ton ego. Parce que souvent, ton ego est tellement démesuré que Al Capone, à un moment donné, sa tête passait plus dans la porte. Là.
Non.
Fait que c'est difficile, c'est-à-dire, à un moment donné, hey, faut que je pense à peut-être me ranger. C'est quoi ce mot-là, retraite? Un baron peut pas passer à la retraite.
Mais non, lui, il est comme, je suis plus important que le président américain.
Exact.
Puis il était tellement narcissique qu'il pensait que tout tournait autour de lui. Oui. Mais tu viens de le dire aussi, dans le sens, sa tête passait plus dans la porte. Ça, ils l'ont réalisé, surtout quand il est passé en cours.
Oui.
quand ils ont essayé de l'emmener pour tax evasion.
Exact.
Là, on n'a pas plaidoyé cette fois-là.
Non.
Mais ça a été légendaire cette journée-là où il est arrivé en cours. Parce qu'il avait bribé tout le jury. Puis qu'est-ce que le juge a fait? À la dernière minute, il y avait une autre salle de cours à côté.
Pour une autre cause.
Pour une autre cause. Il a dit, huissier, allez chercher l'autre juré de l'autre salle et transférer ceux-ci. Et là, Al Capone a paniqué.
Oui, parce que dans le fond, lui, dans sa tête, Al Capone, s'est dit, c'est dans la poche, j'ai payé les 12 jurys, tout le monde est payé. Des sommes assez astronomiques que dans ce temps-là, ça change une vie.
Ben oui.
Pour toutes ces familles-là, ben qu'il y a un des membres de la famille qui est au jury.
Ben oui.
Et là, le juge a des grands soupçons. Parce que là, il faut comprendre que Al, ça fait plus d'une décennie qu'il nous file entre les doigts. Et ça coûte énormément d'argent à l'État américain.
Exact.
Comme vous pouvez vous en douter avec nos beaux costumes, nos beaux costards, c'est que tout ça, c'est des tax dollars de Uncle Sam.
Exact.
Donc, plus que des enquêtes durent longtemps, plus que ça continue à perdurer. Exact. Et c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs.
Exact.
Donc, il est temps qu'on book une fois pour toutes. Et ce juge-là a le flair.
Il a le putain de flair. Il le sait.
Oh, oui, ouais. Ben, il sait, pour sûr.
Il le sait. Puis aussi, c'est parce qu'il y a des agents fédéraux comme toi et moi qui ont travaillé, comme tu dis, depuis une décennie à essayer de l'épingler.
Exact.
Et là, on a une petite chance d'une tax evasion parce que son nom est sur, justement,
un ledger
de Blue Bonnet.
Exact.
C'est incroyable, hein? C'est le comptable qui est partant de juste venir plaidoyer.
Oui.
De plaider, excusez, pas plaidoyer.
Exact.
Qui vient plaider. Puis là, lui, il a peur pour sa vie.
Oui.
Mais il dit oui. Il vient le faire.
Il va.
Et c'est la seule chance qu'ils ont pour l'épingler.
Tu mets la main au collet.
Puis d'habitude, là, dans ces années-là, dans les années 30, là, quand quelqu'un fait une tax evasion, là, tu fais environ 7 à 8 mois si tu te fais arrêter. Puis en plus, la loi est toute neuve parce que tu sais, le 16e amendement vient de passer.
Fait que même les impôts puis les taxes sont pas tant lointains.
Non. Non, pas du tout. Puis tu sais, dans le sens, ils ont réussi à y charger pour environ 75 000 $. C'est tout. Du 750 000 qu'eux autres disent qu'ils auraient fait.
Exact.
Mais ils savent très bien.
Parce que c'est ça, tu peux. Plus. Exact. C'est, dans le fond, c'est que tout le monde le sait qu'il roule sur l'or, mais si tu peux pas le prouver, tu peux juste l'accuser sur les choses qu'on sait hors de tout doute qu'il a vraiment fait.
Exact.
Fait que là, c'était la pointe de l'iceberg, mais c'était suffisant au moins pour le mettre à l'ombre un certain temps.
C'est ça qui est arrivé. Cette journée-là, ils ont plaidé coupable parce qu'ils ne voulaient pas plaider non-guilty.
C'est ça, dès qu'ils ont fait le switch, il n'a pas hésité.
L'avocat a dit on va plaider coupable parce que sinon ils vont te pendre.
C'est ça, c'est parce que, évidemment, plus que tu tires la sauce du jury, de la cause, plus que c'est sévère sur ton dossier.
Exactement, plus que l'État va te retourner contre toi. Puis tu sais, on s'entend, Capone était comme je veux sortir le plus vite possible, si je peux rentrer dedans.
C'est ça,
plutôt je vais briber tout le monde, puis je vais quand même avoir mes bains, puis je vais quelqu'un qui va me
Oui, parce que là, lui, il a une santé assez financière qui se dit que ça va bien se passer là, quand même.
Mais c'est ça qui arrive au début. Il s'en va à une prison d'Atlanta. Au début, tout va bien. Penal, shit is good, everything's right. Mais le gouvernement américain, avec FDR, qui rentre en charge, il dit non. On vient d'ouvrir une nouvelle prison.
Oui.
Alcatraz.
Oh là là.
On va envoyer Al Capone là-bas pour donner une leçon à tout le monde.
Passer un message.
Passer un message.
Parce que si on réussit à envoyer l'ennemi public là-bas, vous pouvez vous dire que vous êtes peut-être le prochain qui va y aller à son tour.
Mais surtout que ça va brosser à New York, là, ça commençait. Fait que là, il envoie Al Capone à Alcatraz. Al Capone, il reste pas longtemps à Alcatraz. Il fait 2/3 de sa peine. Il se fait stabber un après-midi. Ça, c'est piqué, ça veut dire qu'il se fait poignarder par un autre détenu. Parce qu'on s'entend, t'es Al Capone, quelqu'un va te chercher.
Exact.
Là, il est anguille sous roche. Parce qu'il se fait attaquer, puis il réagit pas, le pauvre Al.
Ah ouais.
Il se fait poignarder devant tous les autres prisonniers, puis aucune réaction. Pourtant, c'est un estime malade.
C'est ça, exact.
On retourne dans le temps. Il l'emmène à l'infirmerie, il l'analyse et tout, font des tests de sang. Qu'est-ce qu'il découvre?
Oh oui.
Al Capone est porteur de syphilis.
La syphilis.
La syphilis.
Grosse MTS.
Grosse MTS. Ouais, une maladie transmise de sexuel.
C'est pas à une petite pilule de régler ça, là. Non.
Puis là, on peut faire une parenthèse pour enlever le quatrième mur puis revenir dans la vraie vie. Allez vous faire checker. C'est très important, messieurs et mesdames, si vous avez des relations non protégées ou même protégées avec des inconnus ou des gens que des flings, des Tinder dates, whatever, des one night, allez vous faire checker.
Exact. Très bon aparté parce que c'est vrai que c'est la façon de stopper la vague.
Stoppez-le.
Sinon, ça continue à se répandre.
Exact, parce qu'il est asymptomatique, le stifi.
C'est ça le problème.
Oui, c'est ça le problème.
Il est fameux asymptomatique.
Il était asymptomatique. Oui. Fait que là, il pogne la syphilis quand il a genre 16-17 ans. Là. Il n'a pas rencontré sa femme encore. Là.
Oh,
il
n'a pas rencontré le mec. Il l'a pogné sur le tôt. Non,
il l'a tôt. Dans le temps où il travaillait comme barman. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, Torio l'a emmené comme doorman dans un de ses bordels.
Exact.
Tout ça vient en lien où il couchait avec des filles du bordel. Puis il a pogné la syphilis. Puis en plus, il doit l'avoir donné à d'autres filles.
C'est certain.
Ça s'est partagé terriblement. Mais la syphilis, là, il y a des gens qui s'attaquent des organes. Il y a des gens qui s'attaquent, disons, le sexe ou ces choses-là. Mais lui, c'est le cerveau que ça a attaqué. Pourquoi qu'il n'a pas réagi quand il s'est fait staver? Parce que le pauvre Alphonse Gabriel Capone avait la mentalité d'un enfant de 12 ans.
À ce moment-là.
C'était l'homme au-dessus. Il possédait la terre.
Ouais.
Tu sais, tu parlais tantôt d'Escobar. Là.
Exact.
Il pouvait acheter le Venezuela et l'Argentine s'il voulait.
Oui, quand même.
Là, il avait la mentalité d'un enfant.
Je peux pas le pointer sa carte, le Venezuela et l'Argentine. C'est foutu.
C'est foutu.
Ça l'a aidé dans son périple en prison. Parce que là, en même temps, bon, âge mental de 12 ans, tu te dis, bon, il n'a plus la capacité de commettre le crime.
Et voilà. Fait qu'on va le libérer. Le gouvernement l'a pardonné.
C'est fou, ça, c'est pareil.
Fou. Fait qu'il a été libéré, puis il a réussi à retourner à Palm Beach avec sa femme pour finir ses jours là-bas. Il y a une de ses petites filles, elle a fait un témoignage, il y a une vidéo là-dessus.
Ouais, parce qu'il y a quand même eu deux enfants.
Fun fact aussi là-dessus, très, très, très triste. Son fils, Albert Sonny.
Colin, lui, aussi,
ça. Exactement. C'est la syphilis congénitale. Il a donné la syphilis à sa femme.
Oui.
Elle n'était pas si asymptomatique que ça, mais ils ont eu un enfant un an après lui avoir donné.
Ouais.
Ils ont eu Albert Sonny Capone, mais il était sourd.
C'est ça, il est né sourd.
Il est né sourd.
Oui, c'est ça.
À cause de la syphilis.
Oui, ça, ils l'ont fait dans la série identique.
Oui, c'est vrai.
Oui, il est sourd aussi.
C'est vrai.
Ils ont quand même bifurqué à certaines places là, pour se permettre une certaine liberté créative, mais... Ah, c'est fou. C'est ça qui l'a créé, qui est né sourd. Là.
C'est ça qui l'a créé, mais j'ai quand même vu une belle vie, cet homme-là.
Mais oui, pareil.
Oui,
là,
il a réussi. Il est mort 84 ans. Là. Albert.
Quand même.
Il a eu deux enfants, justement, comme tu disais.
Oui.
Puis cette petite fille-là était un.
La dernière descendante.
Oui, dernière descendante. Puis elle disait, quand il est sorti, Alphonse, elle l'a vu, son oncle. Puis elle a dit, son grand-oncle. Puis elle a dit, il a vu ma mère. Puis il a dit, t'es qui?
Oh, il a...
Oui. Après ça, il a vu ma grand-mère, puis il a dit « T'es qui? » Puis tout le monde s'est dit « Oh, il va pas bien, pas
non.
du tout. »
Non, non, c'est sûr que non.
Non, puis il y avait des membres de la famille de New York qui étaient venus le voir, puis tout le monde était abasourdi.
Ben oui.
De qu'est-ce que...
Mais t'es un homme proéminent que les gens tremblaient à juste l'avoir dans la même pièce, responsable du Bloody Valentine, et que là, t'as un enfant dans un corps d'adulte devant toi.
Oui.
Cet homme qui a tellement de sang sur les mains.
C'est ça qui est terrible.
Puis que là, t'es comme, ah, il est aussi inoffensif que...
C'est ça. Un homme qui a du sang sur les mains, maintenant, il ferait des estis de Lego. Gars,
exact.
C'est fucké. Hein.
Ben, quand même, assez pour que l'État se dise, on libère parce que s'il continue à nous coûter des sous à notre État, qui est déjà quand même engorgé dans des débuts de dette.
Oui.
Puis qu'on le libère parce qu'il n'y a plus de risque.
Mais il n'y a plus d'affaires à être à l'Alcatraz non plus.
Non,
là.
C'est ça.
Il y a des estimes malades. Puis tu sais, dans le sens, non, libérer ça. De toute façon, on a d'autres chats à fouetter. Là. La guerre s'en vient.
Exact. Chose qui est étonnante parce que si c'était pas de l'événement du poignardage, il s'en aurait même pas rendu compte.
Non, il serait mort en prison sûrement.
Sûrement.
Oui.
Parce que tu sais, je veux dire, si tes interactions sont limitées avec les gens. Ça va...
C'est vrai, t'as raison. Si c'était pas fait poignarder, peut-être qu'on l'aurait pas su, Stevie.
Sa vie aurait tourné autrement.
C'est fou.
Il a quand même réussi à aller chercher une fin de vie paisible malgré cette maladie-là.
Oui, mais je pense qu'il a vécu 8 ans chez eux.
Ben pareil. Compte tenu de son parcours.
Il est né. Il est mort au mois d'avril en 1947.
Oui, avril 47.
Oui.
Quand même, fait que il a connu...
Mais tu sais, c'est incroyable. Les gens disaient, c'est fou que... Quand cet homme-là est mort, que tu sais, c'était littéralement le boss des gangsters. Il n'y avait pas de gangsters avant lui.
Non, en fait, c'est ça. Même l'expression
gangster, ça vient d'Al Capone.
Exact. C'est toute cette era-là s'est créée comme ça. Avant, tu n'étais pas ça. Tu étais comme un rebelle. rebelle, peut-être.
Un rebelle, ouais. Un terroriste.
Ouais,
un traître à la nation.
Un traître à la nation. Ouais.
Un gypsy, peut-être, t'as raison.
Ouais.
T'étais comme un.
Un vanupier.
Un vanupier.
C'est un bandit.
Un bandit, ouais.
Mais...
Un thief.
Ouais, c'est ça. Oui, parce que tout le reste. C'est ça, tout le reste était quand même là. Mais là, ça, c'est. Parce que c'est l'élément de rajouter. L'organisation et l'entrepreneuriat dans l'équation qui fait que là, c'est devenu ça. Parce que là, c'est plus que juste la personne qui commet des actes criminels. C'est, cette personne-là contrôle un amalgame d'employés et un réseau complet.
De gens qui font des actes criminels.
Ah oui, exact. Qui fait que pendant que toi, t'es gentiment en train de siroter un martini et un petit whisky... Il y a des actions qui se passent.
C'est incroyable.
En ton nom.
En ton nom. Hey, mais tu sais, qu'est-ce qui se passait aussi dans les années 45 quand la guerre a fini? Si on venait à notre Lucky Luciano.
Ouais.
Ils se sont rencontrés, les cinq familles, ils sont allés à Cuba.
OK.
C'est une belle place pour se rencontrer. Hein, dans ces années-là, surtout.
Exact.
Fait que là, ils se rencontrent à Cuba, puis ils décident justement de faire un syndicat du crime organisé.
Oui.
Ça, là, ce syndicat-là, là, du crime organisé, là, a changé la facette du crime aujourd'hui, comment qu'elle fonctionne. Où est-ce que tu peux pas prendre la place, qui te revient pas.
Oui.
Puis il y a comme un respect à tout ça. Et quand ils ont créé le syndicat, c'est pas un syndicat, mais ils ont créé comme une union, ils ont appelé ça « Our Things ». Qu'est-ce que c'est en italien, « Our Things »
Ouais, c'est quoi?
« La cosa de nostra ».
Ah! Oh, c'est là que ça s'est parti.
Exactement. Puis depuis ce jour-là, les cinq familles se sont toujours supportées.
Exact. Ça a duré pendant des décennies. Là, leur influence.
Ça a duré jusqu'à les années 2000.
Exact. Encore à ce jour, il y a encore des répercussions de tout ça.
Et tu réalises-tu l'influence d'Al Capone sur Lucky Luciano?
Oui.
Puis le fait que pendant un siècle, à ce jour.
Exact.
Les familles contrôlent encore des choses.
C'est incroyable. Puis deux personnes qui ont parti de l'étape d'être des eux autres, même des hommes de main.
Oui, c'est ça.
C'est rien. Ils n'étaient pas destinés eux-mêmes à devenir des chefs, des grands chefs. Là.
Exact.
Les deux, c'était des hommes de main. Là. Ils ont eux-mêmes monté les échelons à coup de... Pas juste du jus de coude.
Pas juste du jus de
coude. Passez l'expression. Non.
Du jus un peu plus alcoolisé que
exact.
Ça.
Beaucoup de whisky.
Beaucoup de whisky.
Dans...
Hey, autre fun fact à propos de la prohibition. Oui. Savais-tu que quand ils ont passé l'amendement, qui était le 18e amendement de la prohibition, tic-tic-tic-tic, ben, tout le monde s'attendait que ça allait être un peu comme au Canada, ou quand ils l'avaient fait en Irlande, je crois, où ce que c'était les produits d'alcool très forts, ou les vins très forts, toutes des choses à 5% d'alcool et plus haut, un peu qu'est-ce que tu parlais au début. Mais non, esti, dans le 18e amendement, il est écrit que n'importe quoi qui dépasse 1,5% d'alcool fait partie de la prohibition.
Il rentre là-dedans.
Il rentre là-dedans.
Ah, ouais.
Ça veut dire, bro, que la choucroute était rendue
interdite.
Illégale.
Ah, c'est incroyable. Puis nous, pendant ce temps-là, au Québec, contre-attaque contre Clément Champ Gauche. En 1921, on est en mode, bon, mais on crée la commission des liqueurs.
Ah ouais.
Après ça, fait que là, on institutionnalise aussi l'alcool. T'sais, c'est pas juste des boissons de sous-sol. Puis là, c'est comme la première fois où on pouvait donner un partenaire stratégique, mais pour de l'illégal envers les États-Unis. Puis ça va avoir joué un gros rôle là, parce que au sommet de la prohibition, à la fin des années, au début 1930, le Québec, juste en revenus engendrés par les taxes d'exporter l'alcool vers les États-Unis et ailleurs, ça donnait 25% de leurs revenus. Puis là, on s'en rend qu'on parle de revenus légaux. Fait que c'est juste par rapport à ce que les gens ont vraiment payé aux douanes, etc. Fait qu'en 1930, c'était 25% des revenus du Québec, de la province que nous sommes, qui était relié à les taxes de l'alcool. Fait que ça a quand même là, coulé à flot.
Ça remplissait nos coffres,
est-ce-t-il? Ah oui, vraiment.
Fille.
Fait que c'est sûr que la fin de la prohibition en 1933, c'est venu frapper vraiment fort.
Absolument.
Parce que là, on a connu une époque où ce que nous, l'alcool était disponible.
Oui.
En plus de ça, l'âge de la majorité était 18 ans. Nous sommes la seule place en Amérique du Nord où ce que tu peux avoir 18 ans et voter et aussi picoler.
Hey.
Et là, ça a créé cette manne-là que, dans le fond, c'est... même si t'es un Ontarien qui n'est pas affecté par la prohibition, encore aujourd'hui, ben ça en vaut la peine de descendre à Hull puis de faire tourner des bons.
Fameux Hull. Ils ont gardé une belle réputation. Exact. Mais tu sais, c'est fou parce que tu viens de faire réaliser que ça a quand même pris 7 ans avant qu'on fasse laisser les femmes voter au Québec.
Ben oui, c'est pas arrivé en 1940.
1940.
C'est incroyable.
En 1926 puis 1926, le reste du Canada l'ont accepté. Oui. Nous, ça on a été les derniers. 1940.
Les bons derniers.
Les bons derniers. Ah, on est-tu dégueulasse à
pas faire? Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Oh oui. Vraiment bon grand dernier. Parce que
ah oui.
Ça fait même pas encore 100 ans
non.
que le droit des votes chez les femmes est présent.
Oui, au Québec.
C'est fou.
On t'a parié.
Un petit peu. On est resté dans nos bas bruns sur certaines choses.
Ah oui. Mais on aimait peut-être notre zone de confort un peu trop. Ouais, puis, c'est ça. Tu vois, on en paye le prix aujourd'hui.
Oui, définitivement. Non, mais ça a forgé notre société. Hein?
Oui, ça a fait une société solide. Puis on a des femmes fortes.
Ah, oh, ben c'est sûr, parce que là, tu sais, avec le comme les mouvements que tu parlais aux États-Unis, ça a forcé à aller dans la résilience. Ouais. Tout ça, c'est sûr qu'il aurait préféré s'en passer, puis qu'il n'y avait pas à marcher les genoux dans la vitre, là, mais quand même, ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, on peut juste. Sans sentir désolé.
Oui, ben oui.
Ça aurait dû en être autrement, mais.
Ben oui, mais tu vois, aux États-Unis, le fait qu'ils ont laissé les femmes voter,
oui.
Ben, les femmes ont voté contre la prohibition.
C'est ça.
Puis, fun fact, encore sur l'espèce de système politique qu'on a en ce moment en Occident, c'est qu'on ne retourne jamais sur nos décisions.
Oui.
Fait que le gouvernement américain, surtout, là, c'est un bel exemple, exact. À place d'aller changer un amendement, on ne va pas changer le 18e amendement pour dire l'abolition de la prohibition, c'est fini. Non, on a emmené le 21e amendement qui cancelle le 18e.
Oui. Tu parles c'est de ça niaiserie. Sa fonction. Oui. Parce qu'on l'a écrit sur la Constitution. Ouais. Fait que là, on peut pas biffer un amendement.
Tu peux pas
ça. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait aussi biffer le 2e amendement.
Et voilà.
Et là, on touche pourrait pas. Ça, toi. Les pères fondateurs n'ont pas fondé ce pays
jamais.
Pour qu'on puisse biffer un amendement.
Oui.
Donc, la seule solution, c'est d'en rajouter un autre.
Mais c'est fou hein, comme système de politique. Ouais. C'est comme un amendement, c'est comme se dire, un peu comme on disait au début, oh non, on fera pas une loi, on veut que ça fasse partie de la Constitution.
Exact.
C'est quoi? C'est comme, genre, tabarnak. C'est bizarre. C'est tout ça est bizarre. Ouais, on travaille pour un gouvernement que je comprends pas, des fois.
Ah, ça va de se dire qu'on devrait émigrer au Québec.
On s'en retourne au Québec.
Ah oui, c'est... On n'arrête plus de picoler beau. Durant toute cette décennie-là.
Aller boire de la bière des pinettes. Au Québec.
Oui, exact. Ouais. Le Québec. Belle société qui s'est construite pendant un certain temps à flot sur l'alcool. Donc, parfois, l'interdiction va mener à un marché. Ouais. Ça va créer ça. Puis dans l'histoire, ben, il y a eu d'autres situations aussi comme ça où il arrive une démarche légale ou un changement total. Comme là, dans les dernières années, ben, on a vu une montée pendant un certain temps de ceux qui vendaient du plexiglas.
Oui.
Plus que jamais, le plexiglas avait été en demande.
Oui,
parce que, de façon législative, il y avait eu des changements, des réglementations de la société qui faisaient que il faut que si tu veux aller au restaurant, il faut qu'il y ait un plexiglas qui nous sépare. Donc, il y aura toujours, dans les époques, les générations, des entrepreneurs qui vont déceler c'est quoi maintenant la nouvelle mode? C'est-tu de vendre des vapes pas trop chers parce que les jeunes aiment ça? Peut-être, qui sait, mais ce n'est pas notre combat.
Non,
non. Parce que nous, on était dans la boisson.
Dans la boisson. Dans la boisson. Oui. Et aussi, on veut souligner qu'il faut boire avec modération.
Bien
vous
sûr.
Savez, si vous nous suivez depuis longtemps, on fait le mois de février sans alcool.
Exact.
C'était pas des.
C'est des mocktails en réalité. Là. Maintenant, si vous êtes encore là, là c'est des mocktails, faut le dire.
Ceci n'était pas un récit.
Non, exact. C'est des props. C'est des props. Parce qu'on est fort, puis on est rendu à mi-mois, passé mi-mois même, et on n'a toujours pas succombé à boire de l'alcool. On est en mode prohibition à bord du bateau, là, présentement. Là. C'est quasiment identique. Là. Tu rajoutes un peu de Lucky Luciano, un petit Al Capone par-ci. Identique.
C'est des balles de cheville, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Valentine.
Ouais, mais c'est ça. Soyez raisonnables. Buvez pas trop.
Oui.
Soyez conscient de qu'est-ce que ça fait. Ça affecte tout le monde autour de vous.
Exact. Ouais, ça affecte vos relations, vos performances, autant au travail que dans toutes les autres sphères de votre vie.
Sexuel.
Oui, définitivement. Ouais.
Puis, on a plus 20 ans, là.
Non, exact. Puis soyez prudent parce que vous pouvez en demander à Al Capone, ça y a coûté cher.
Terrible, ouais. Allez vous vérifier aussi, ah, si oui. Allez passer ces tests-là. Oh, ouais, ouais.
C'est...
Ah, ouais.
Colin, l'enfer.
Ouais, mais on veut pas vous mettre de stress, là. Non. C'est pas ça, je suis pas fait pour ça, là. C'est pour avoir du plaisir, exact. Avoir du fun, puis aussi comprendre on vient de où, tout ça.
Oui. Qu'est-ce qui nous a amené à devenir la société qu'on est,
oui, c'est ça, aujourd'hui? Exactement.
Parce que cet événement-là, ça a quand même créé des géants, là. Même les Molson et les Labatt de ce monde ne seraient pas devenus aussi grands qu'ils étaient sans cette époque-là. T'sais, on parle d'une époque où que même la famille Brofman est devenue la grande famille proéminente qu'ils étaient. C'est la prohibition qui a créé ça. Autant qu'il y en a d'autres, que ça a été l'époque de l'ascension des chemins de fer ou le pétrole, qui sont devenus des magnats de cette industrie-là. Oui. Il va y avoir tout le temps...
Tu vois, on parlait de Carnegie là, tantôt, là. Mais tout le monde était dans le iron. Tout le monde mettait sur le fer.
Oui.
Puis lui, il a fait, non, on va sur l'acier. C'est du steel qui va construire l'Amérique.
Exact.
Il a mis tout son argent dans le steel.
Il a eu raison.
Quand il y a eu l'industrialisation, l'Empire State Building, tout ça. Ouais.
Il a gagné au...
Il a gagné. Il a tout mis sur le noir, puis il l'a eu.
Ben, c'est ça, c'est que... c'est aujourd'hui, avec du recul, on se dirait que... ah, ben, il a fait le choix logique. Mais dans ce temps-là, quand t'as pas Internet, t'as très peu de repères, il faut que tu y ailles. C'est la grosse réflexion, là, de se dire, hey, on pourrait, pendant que tout le monde regarde à gauche, on pourrait changer de... Puis il y en a plein qui se sont floués là, complètement. Là, ils ont investi sur des choses que... ah, ils se sont dit, nous, ça va être le blé. Puis finalement, ben, tu peux être affecté par plein de facteurs externes, là, comme pour ce qui est du blé. La température ou autre qui fait que ça crash. Puis là, tout ça en même temps que la récession, le crash boursier, le pire crash historique de l'histoire de la bourse.
Dans le fond, le début du 21e siècle était dur en
estime. Ben oui, parce qu'il y a eu aussi la grippe espagnole, comme en 1914 ou quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Donc quand même, pour ceux qui disent que parfois c'était mieux autrefois, il y a eu certaines époques où c'était pas juste à coup de... sueur de ton front que tu bâtis ta société. Là. C'est aussi, tu perds tes frères et sœurs dans l'équation de la grippe espagnole, un autre qui se fait...
tuberculose, exact. Un autre l'influenza,
Et
l'hostie a pogné la syphilis. Ouais, moi, ça m'a tellement choqué quand j'ai appris ça. J'étais comme, hey, voir que tu peux être asymptomatique d'une maladie transmise sexuellement, ben, puis qu'elle vient dévorer le cerveau.
C'est ça. Une fucked up de même, là... tu dis de quoi d'aussi intense que ça, mais t'es asymptomatique, c'est fucked up. Hein?
Ouais. Tu croirais avoir des signes précurseurs.
C'est ça, un petit.
Perdre une couille de temps en temps. T'es dans la douche, oups, c'était quoi ça? Ça fait dans ma mal.
Mais non. Asymptomatique.
Restifie. Fait que soyez prudents.
Soyez prudents. Si vous êtes forts, ceux qui sont dans le mois d'abstinence aussi, parce qu'il y en a aussi qui le font.
Mais ceux qui font l'abstinence tout court.
Oui.
Ceux qui ont réussi à arrêter à boire, consommer.
Exact.
Vous êtes très forts.
Ouais,
ça je suis sûr que les gens autour de vous vous remercient.
Définitivement, oui. Ah, parce que c'est pas tout le monde là, qui est viable là, quand la consommation se fait trop. Il y en a que ça dérape. L'histoire l'a démontré avec plein de gens. Qu'on a fini par retirer les noms qu'il y avait au nom des rues, au nom de certains prix de gala. Ça mène à la déchéance. Hein. Il faut parfois... un peu de tempérance.
Un peu de tempérance. Oui. C'est le mot à se souvenir.
Oui.
Un peu de tempérance.
Exact. Et dites-vous que le crime ne paye jamais, car il y a des agents comme nous qui vont vous mettre la main au collet. Même s'il faut qu'on en revienne sur ton T4 qui est mal fait.
T4
qui est mal fait. Et non, les mille et un crimes que tu as fait. Mais que veux-tu? C'est ça.
Alors, c'est l'heure de dire au revoir.
Oui, parce que... on s'attaque bientôt, on ne sait pas encore en 1933, mais on est à 6 ans de vivre une épopée. Mon petit time dit, mais on ne sait pas de nous encore.
De toute façon, on a un train pour New York dans pas longtemps qui part.
Fait. Qu'on doit prendre. Tant qu'on ne va pas à Chicago, parce que ça finit tout en mal à Chicago.
Non, on va pas là. Il fait trop frais de toute façon.
Pas un bon choix.
Non.
Alors, qu'on passe, grâce à nous, Al fonce n'est plus.
N'est plus.
On a contribué à,
oui,
à arrêter ça.
Oui.
Et surtout, on a contribué à être Brise-Glace.
Brise-Glace.
Oh oui. Tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Al Capone a brisé bien les gueules. Je sais pas si c'est brisé les glaces, par contre. Mais surtout, nous sommes Brise-Glace. Soyez sages. Et à la prochaine.
À la prochaine.
Que vous soyez boulanger, bootlegger, ferblantier.
Ferblantier.
Ouais, bon choix. Lâchez pas. Vous êtes forts. Oh.